qui m'a parlé dans ce livre, c'est, tu sais, quand tu as une espèce de truc que tu entends et ça résonne en toi comme si tu connaissais déjà ça, comme une espèce de vérité intérieure, et tu dis, c'est tellement simple que c'en est évident, mais j'aurais jamais pu le poser dans ces mots-là. Et je trouve que c'est ça la force de l'auteur, c'est de dire des choses qui sont extrêmement simples, mais de les expliquer avec les bons mots pour que tu les comprennes, que tu les remettes en évidence, en fait, dans ta conscience.
Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant 3 ans.
Bienvenue sur le podcast Balado 3.0 pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un livre en particulier qui nous a beaucoup inspiré. Alors en fait, François et moi l'avons lu et Christian ne l'a pas encore lu, donc on pensait que c'était intéressant de vous en faire une présentation plutôt par un jeu de questions-réponses, en vous apportant aussi bien sûr la compréhension de ce livre-là par notre propre spectre ou perspective. Donc voilà, salut à vous. Comment ça va Christian, François?
Bien, super, et toi?
Bah moi ça va bien.
Excellent. Bon bah écoutez, bien content de vous retrouver pour ce 9e épisode du coup de la saison 1. On attaque directement?
Allez,
dans
on
le
rentre.
Vif du sujet.
J'ai juste un petit truc à dire avant.
Vas-y.
J'ai pas mal de personnes qui reviennent vers moi pour me poser la question là du livre et du site internet que j'avais posté, enfin dit dans un des épisodes, je sais plus, peut-être le 4 ou le 5e épisode, juste pour dire qu'il y a un petit peu de temps d'attente puisque je suis en train de refaire une version pour que ce soit aux petits oignons. J'ajoute une partie sur la partie crypto et le site devrait arriver bientôt avec le livre. Vous pourriez y accéder très rapidement.
Parfait. Bon, bah, t'as bien fait de nous dire ça pour ceux qui nous écoutent et qui attendent ton livre.
Exactement. Il y a pas mal de petits contretemps. Je vous rappelle qu'on a fait les podcasts il y a maintenant plus de 6 mois. Et donc, du coup, d'autres projets sont insérés entre temps, dont des projets immobiliers. Et on en reparlera très prochainement sur un autre podcast.
Excellent. Bon, bah pour la petite histoire, moi, ce livre-là, donc « La psychologie de l'argent » ou en anglais « The Psychology of Money », donc qui est un livre qui a été écrit par Morgan Housel, je ne sais pas si je prononce bien, H-O-U-S-E-L. Donc, c'est un livre qui a été traduit en français. Hein. François, je pense que tu as lu la version française.
Moi, j'ai la version française, oui.
OK. Donc, les deux versions existent. Il y a probablement d'autres langues aussi, hein, si jamais vous êtes plus à l'aise dans une autre langue. Et moi, pour la petite histoire, ce livre-là, c'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, je pense que j'avais fait pas mal de recherches sur les incontournables, les lectures à faire absolument quand on s'intéresse à la finance en général, aux finances personnelles, à l'indépendance financière, etc. J'avais absolument jamais entendu parler de ce livre-là. Et il m'a été recommandé par une amie, Catherine. Et bizarrement, après que j'en ai entendu parler pour la première fois, je pense qu'on me l'a conseillé comme 2 ou 3 fois, à différentes personnes, différentes sources. Donc voilà, c'est souvent ça dans la vie, hein, quand on a notre attention qui se focus sur quelque chose, d'un coup on voit que tous les signes qui étaient là peut-être depuis longtemps qu'on n'avait jamais perçu. Alors voilà, je l'avais recommandé à François, et François, je pense que bah, tu nous le diras peut-être à la fin, mais je crois que tu as bien apprécié la lecture.
Mm-hmm.
Ouais.
Je le dirai.
Okay. Comment vous voulez faire ça du coup, Christian? Est-ce que tu veux mener un peu par le jeu des questions?
Ouais, j'ai prévu quelques questions.
Excellent. Bon, moi, j'avais prévu un peu les 5 gros points que je retenais de ce livre-là. Ouais. Fait qu'à la limite, je te dirais que si jamais il y a des choses qui n'ont pas été couvertes par tes questions, on pourra repasser un petit peu au travers, ouais, si je pense qu'il y a des éléments qui auraient été importants de préciser.
Parfait.
Et puis, voilà, bah, je te donne le micro, Christian. À toi de jouer.
Génial, merci. J'ai hâte de voir un peu, parce que du coup, je vais découvrir en même temps que les auditeurs. J'ai vu un peu quand même la 4e de couverture. J'ai vu un peu de quoi il en retournait. J'ai vu le chapitre aussi. Différentes étapes du livre.
Le sommaire,
voilà, ouais. C'est ça. Donc, du coup, cool. Je commencerai bien par une question, déjà, peut-être, qui permet d'avoir une vision un peu synthétique. Comment vous résumeriez le livre en quelques phrases?
Moi, ce que je dirais de ce livre, c'est que, plus que la psychologie de l'argent, il aborde la psychologie humaine. Et je trouve qu'il prend des parallèles à chaque fois sur des idées et des exemples très précis de psychologie humaine et l'applique sur la psychologie de l'argent. Donc ce que je trouve super intéressant dans ce livre, c'est que en plus de donner des leçons sur comment investir, il donne aussi des leçons de vie et des leçons de comment entreprendre, de comment penser sa vie, comment réagir face à l'inconnu. Et je trouve que c'est plein de pépites comme ça qui sont super intéressantes, qu'on peut mettre en place non pas seulement dans le domaine de l'argent, mais dans d'autres domaines.
Ben, moi, je te dirais que c'est quand on parle de psychologie de l'argent, derrière le mot psychologie, il y a un peu le côté peut-être intellect, mais il y a surtout le côté comportement. Et moi, c'est ça dans le livre que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en gros, il t'explique que ce que tu fais avec ton argent, le comportement que tu as vis-à-vis de ton argent, est beaucoup plus important que ce que tu sais à propos de l'argent. Et ça, pour moi, ça a été un game changer parce que j'ai longtemps pensé que voilà, c'est il y a seulement une poignée, une élite qui va avoir accès à l'information ou par leur position, parce qu'ils travaillent dans des hedge funds, ils ont accès à certaines informations ou parce qu'ils ont étudié en économie ou dans des grandes écoles, peu importe. Et en fait, dans ce livre-là, je trouve qu'il casse un peu cette idée et il dit finalement, tout le monde peut toucher à l'indépendance financière dans la mesure où il est capable de vraiment avoir des bons comportements. J'ai noté quelques citations, il y en a une que je vous partage là parce que je trouve
Ah,
que ça s'y prête
j'ai
bien.
adoré. Il a tellement de bonnes citations, ce livre. Je les
Ah
ai
ouais, de
toutes
ouf.
notées, hein.
De ouf. Tu nous en partageras sûrement. Là, j'ai traduit ça à la volée parce que je l'ai lu en anglais. Mais en gros, je vais juste garder l'expression anglaise parce que je n'ai pas trouvé comment le traduire. Mais en gros, il dit, le succès financier n'est pas une hard science, donc n'est pas une science dure, mais plutôt une soft skill. Alors ça, je ne sais pas comment traduire ça, une
Ah,
compétence
et bah
douce.
si,
Douce, c'est tout.
compétence douce, ouais, c'est comme
Une
ça, ouais.
compétence douce,
C'est
en
dit.
fait, dans le recrutement, ça va être plutôt, comment dire,
Le
quand c'est hard
savoir-être que le
skills, en fait,
savoir-faire.
ça va être une compétence qui est sanctionnable par un diplôme. Une soft skill, ça va être plutôt
Ok.
une attitude. Par exemple, quelqu'un qui a de l'empathie, ça va pas être sanctionné par un diplôme, mais c'est une soft skill, c'est plus doux, c'est plus de l'ordre de l'attitude humaine, c'est plus des savoir-faire,
Savoir-être.
ou savoir-être, excuse-moi, voilà,
Savoir-être.
que savoir-faire, tout à fait. Tu vois l'idée? Et ça rejoint ce que tu disais juste avant, en fait. C'est-à-dire que c'est plus un comportement.
Donc disons compétence douce. Donc le succès financier n'est pas une science dure, mais une compétence douce où la façon dont tu te comportes est plus importante que ce que tu sais. Donc ouais,
Oui, ça fait
c'est
sens.
une citation. Je pense qu'il résume bien l'esprit du livre. Donc pour répondre à ta question, Christian, j'espère que cette accroche vous donnera déjà envie de lire le livre, mais on va rentrer un peu plus dans le détail.
Bah
Clairement.
justement, si vous voulez peut-être vous attarder plus sur une partie qui vous a le plus marqué et pourquoi? Parce que j'ai vu que ça traitait de plusieurs choses, aussi bien émotionnelles que comportementales, que au niveau de l'échec et apprendre à gérer l'échec et ce genre de choses. Enfin bref, ça a l'air d'être très vaste.
Ouais, c'est très vaste. En fait, il va prendre 18 chapitres où il va parler des différents comportements qui pourraient être associés. Alors, il y en a qui se recoupent, mais majoritairement, à chaque fois, c'est une nouvelle notion qui est abordée par chapitre avec une histoire distincte sur laquelle il va aborder, enfin, peindre sa notion qu'il veut transmettre. Moi, il y a une qui m'a beaucoup parlé parce que je l'ai vécue. C'est le chapitre 6 de l'importance de la longue traîne. Donc en français, c'est un peu bizarre comme nom. La longue traîne, pour faire simple et pour expliquer de manière très rapidement la chose, c'est l'idée que les résultats d'une expérience, ça peut être statistique majoritairement, hein, une expérience statistique, vont être répartis sous la forme d'une cloche qu'on appelle courbe de Gauss. D'accord? Donc je pense que ça, on la voit tous. Typiquement, les notes d'une classe vont être réparties autour d'une moyenne et la dispersion finalement des notes vont être autour de cette moyenne. Et on va avoir très peu de très bonnes notes et très peu de très mauvaises notes. Mais on en aura quelques-unes. Ou je peux donner un autre exemple, la taille d'un être humain. Voilà, un humain, il va être en moyenne aux alentours des 1,70 m. Et on peut avoir des humains qui vont mesurer 2,30 m, typiquement, ou des humains qui vont mesurer 1,20 m. Ça doit techniquement exister. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'était cette idée que dans la. Donc il va parler de cette idée de longue traîne et de répartition au niveau des extrêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, en fait, dans la vie de tous les jours. qu'il va avoir des éléments aléatoires qui vont multiplier finalement les rendements potentiels d'un portefeuille et qu'on peut pas imaginer en fait. On peut pas contrôler et on peut pas prédire leur événement. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ce chapitre-là, moi, je le trouve très intéressant parce que souvent, on essaye de réfléchir plutôt dans la norme et au final, c'est plutôt ces événements-là qui sont extraordinaires qui vont impacter le portefeuille. C'est rarement finalement des performances moyennes qui vont impacter le portefeuille, mais c'est ces performances-là qui risquent d'impacter le portefeuille. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, par exemple, avec la crypto-monnaie, où c'est un heureux hasard finalement d'être arrivé à ce moment-là, à cet endroit-là, à investir sur les bons tokens qui m'ont permis d'avoir le rendement que j'ai eu. Et ça, il faut en avoir conscience aussi que c'est de la chance.
En fait, tu pointes du doigt la capacité des personnes à avoir tendance à surestimer un peu leur capacité à prévoir l'avenir ou à sous-estimer les risques peut-être, c'est ça ?
Alors oui, il y a de ça. Oui, il y a de ça, il y a cette idée-là, et puis il y a aussi plus que c'est ce que je veux transmettre à travers ce chapitre. Moi personnellement, ce que je retiens de ce chapitre, c'est l'idée que on aurait tort. Dans l'investissement, on parle de diversification majoritairement. On dit qu'il faut diversifier pour être plus résilient. L'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de trop se diversifier. Ou à l'inverse, certains débutants qui n'ont même pas cet adage, bah, ils ne se diversifient pas du tout. Et moi, c'est ça que je veux transmettre, c'est qu'à travers en fait, cette leçon-là, en fait, c'est là où on comprend qu'une bonne diversification bien réfléchie potentiellement peut avoir un impact magistral sur les accidents de richesse que vous pouvez avoir.
En vous diversifiant... On retrouverait là cette fameuse courbe de Gauss dans aussi cette notion de diversification ?
Totalement. Tu vas
et donc
avoir...
du coup, ça serait quoi concrètement la moyenne du coup qui serait recommandée où tu dis que c'est pas trop, mais c'est pas peu non plus ? Ce serait quoi là ? Tu as une idée ?
Ah, c'est... Non, ils donnent pas
ça
de
dépend,
chiffres.
Ça dépend des investissements ?
Voilà, ça va dépendre des investissements. En fait, ça va dépendre aussi du risque que tu es prêt à mettre et finalement de la marge d'erreur. Et ça, c'est un autre chapitre où il appuie beaucoup dessus et je trouve qu'il est très intéressant aussi, qui va en fait de pair. En fait, c'est moi ce que je veux faire transmettre avec cette idée de longue traîne, c'est se dire que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, faut réussir à se dissocier des investissements qu'on fait. Avoir cette marge d'erreur qui nous permette de dire peut-être que j'atteindrai pas finalement mon objectif ultime, si j'atteins déjà 10% de mon objectif, je suis content, mais que si je mets tout bien les choses correctement, que je laisse courir le temps et que je suis persuadé que ce que je fais et ce que je mets en place, ce sont les bonnes pratiques, et ben potentiellement c'est là où en fait on va avoir des résultats insane. Parce que c'est là où en fait où la longue traîne va appuyer. Et surtout, parce que ça des fois aussi on s'en rend pas compte et ça vient du problème de la longue traîne, et ça j'en parlais dans un autre podcast, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire que comme c'est des expériences qui ont des résultats qui ont très peu de chances de se produire, et ben forcément, quand on va essayer de reproduire les résultats d'un investisseur type Warren Buffett, on va imaginer que potentiellement telle ou telle situation, c'est ce qui l'a fait réussir, alors qu'en fait, on oublie principalement que ces résultats viennent d'un phénomène de longue traîne, c'est-à-dire d'une chance extrêmement faible de se réaliser.
Ok, quand tu dis longue traîne, en fait, faudrait le synthétiser par cette idée de c'est un heureux hasard.
Mais ça peut être aussi un heureux désastre, enfin un désastre, non, c'est pas un heureux, enfin l'inverse, quoi.
Ok.
On a autant de chances d'avoir quelque chose de bien comme quelque chose de pas bien dans son capital. Et c'est pour ça qu'aussi, en mettant des garde-fous et en se diversifiant au maximum tout en restant quand même limité, parce que sinon on va limiter sa performance, hein, forcément, et ben en fait, on va aussi limiter ce genre de perte qui pourrait être catastrophique pour son capital, puisque l'objectif, et ça, peut-être Julien y reviendra, parce que je vais peut-être pas tout dire, c'est que dans le game de l'investissement, l'objectif, c'est de survivre.
Oui, c'est de ne pas cramer son capital et de le conserver.
Et si on meurt, et ben en fait, on ne va pas pouvoir avoir l'effet multiplicateur et on ne va pas pouvoir subir les éléments de longue traîne. Je donne une stat qui donnait à un moment donné, il prend l'exemple du Russell 3000, qui est un indice américain, et il nous montre depuis, je crois, les années 80, les différentes statistiques du Russell 3000. Et il montre que il n'y a que 7% finalement des entreprises du Russell 3000 qui ont généré des gains sur les 40, 50 dernières années. Et ça, en fait, c'est impressionnant parce que ça veut dire que typiquement, je suis un investisseur classique. Bon, ben, on va commencer par parler de gestion active. Donc, je vais essayer certainement faire du stock picking. Je vais acheter quelques actions par-ci, par-là, à droite, à gauche. Je vais commencer à créer mon portefeuille. Puis après, on va potentiellement me dire, et ça, c'en est l'exemple même, c'est une des choses qui montre bien que la gestion active est très compliquée, c'est qu'au final, parmi toutes les actions que j'aurais pris, eh ben, il y en a 80%, 90% qui ne feront pas le job, qui vont soit mourir, enfin, soit apporter très très peu de résultats, ou des gains très très limités. Et il n'y en aura que une ou deux qui vont en fait faire exploser le capital. Et ça, c'est quelque chose qui est perturbant. Et nous, on l'a vécu avec Julien, on peut le transmettre. Et c'est pour ça que je pense que ça m'a beaucoup parlé aussi. Ça m'a parlé par rapport à la crypto, mais ça m'a parlé aussi par rapport au fait qu'on avait créé un code, un algorithme qui prenait position sur les marchés. Et le code qu'on avait construit avec Julien, c'était un code qui était très compliqué à suivre psychologiquement, parce qu'en fait, il était exactement dans cette idée de longue traîne. Sur 10 positions qu'il prenait, en fait, il y en avait 5-6 qui étaient perdantes, si je dis pas de bêtises. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient juste flat ou qui apportaient un peu de gain. Et puis, il y en avait 1 à 2 qui en faisaient en fait toute la performance. Il y en avait une qui, en gros, réparait quasiment toutes les pertes qu'on avait eues des précédentes, et une autre qui nous faisait tous nos gains.
C'était presque un peu la loi de Pareto, finalement.
C'est un peu la loi de Pareto, mais même encore plus poussée. Encore plus intense. Et donc, psychologiquement, je sais pas comment expliquer aux gens, mais ça, c'est quelque chose qui est tellement difficile à tenir. Comment tenir le cap dans sa psychologie et de dire, mais je fais le bon choix, quand on voit que 90% de ces actions, en fait, n'apportent pas de résultats. C'est super difficile. Okay. Et au final, pour tenir la route, finalement, il va falloir attendre cette énième chose qui va se passer, qui va faire finalement que ça va faire tous tes gains. Et c'est là-dessus, en fait, que j'appuie. C'est cette importance de longue traîne, en fait, c'est de dire, faut pas faire la girouette, à tourner dans tous les sens, faut croire à finalement ce qu'on a mis en place et être sûr que ce qu'on fait, c'est les bons choix par rapport à ce qu'on a décidé. Bien sûr, si on a fait de la merde, on a fait de la merde, hein, garbage in, garbage out. Mais si on a fait les bons choix, normalement, on devrait être récompensé. Il suffit d'attendre. Je laisse la main à Julien.
Je pense qu'il y a vraiment une question de foi, en fait, dans ce que tu dis. Et c'est pour ça que moi, je recommande tout le temps, quand on me demande quelle stratégie j'utilise, moi, je dis, c'est pas important la stratégie que moi j'utilise, il faut que tu trouves une stratégie qui fera du sens pour toi. Parce que dans les moments de doute, si tu peux revenir au fondamental de pourquoi tu as choisi de regarder tel paramètre ou telle condition pour rentrer en position, faire un trade, peu importe l'horizon de temps, c'est ça qui fait que tu vas rester en position et que tu vas aller chercher ces trades gagnants-là. Il y avait une autre stratégie qu'on avait codée à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, François, c'était sur juste des moyennes mobiles, c'était un truc tout bidon. Et elle avait fait une performance de fou furieux. Et en fait, on n'avait pas compris pourquoi. Et on avait regardé le détail de toutes les positions prises. C'était un truc sur 20 ans ou 30 ans de backtest, si je me souviens bien. Et il y avait une seule position sur les 20 ans, mettons, on va dire que c'était 20 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Mais c'était plusieurs années définitivement. Et bien, il y avait une position où, en fait, vu que c'était du suivi de tendance, il était rentré en position, on n'était jamais sorti. Et on avait encaissé un gain, mais de ouf. Qui faisait qu'après, quand tu faisais ta moyenne annuelle, t'avais une perf de dingue, genre, je sais pas moi, de 20% par an, tu vois, ce qui est deux fois plus que ce que tu peux espérer dans le meilleur des cas sur les marchés, et tout ça grâce à une seule position. Donc définitivement, ça peut faire appel à la foi, et d'ailleurs, je sais plus si c'était dans ce livre-là, mais j'avais noté la statistique, mais je crois que c'est dans le livre, tu me diras, François, quand on parle de l'importance de rester exposé sur les marchés.
Oui.
Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, éviter le stock picking, c'est pour ça que les indices ou s'exposer à un secteur, c'est intéressant parce qu'on maximise les chances de toucher une position qui va être très fructueuse. Et il y a là surtout la notion de temps, donc s'exposer dans le temps. Et pour donner un exemple, en fait, si on prend le marché, le SP500, entre 2001 et 2020, donc sur presque 20 ans, il faut savoir que ta performance, elle passe à 164% au lieu de 291% si tu manques les 4 meilleurs jours de trading.
J'adore cette stat.
Donc, tu imagines sur 20 ans, il y a juste 4 jours que tu manques parce que tu as commencé à vouloir optimiser. Tu t'es dit, oh, là, ça descend, je sors, je vais racheter plus bas. Tu commences à faire le malin. Versus quelqu'un qui n'a rien touché pendant 20 ans, bah, ta perf, tu descends de, je répète, de 291% à 164%. C'est énorme. C'est quasiment divisé par 2 pour 4 jours de trading.
Comme quoi, là, on voit bien qu'il y a vraiment des conditions qui, comme tu le disais au départ, Julien, sur la notion de, et même François d'ailleurs, la psychologie et je dirais les vertus peut-être, des qualités humaines comme la patience ou j'imagine la persévérance, là, pour le coup, qui doivent être extrêmement importantes parce qu'au final, si tu as un bon, des bonnes connaissances techniques, etc., un bon savoir-faire, mais que tu n'as pas cette qualité humaine de patience, de persévérance, etc., bah au final, là, tu rates ces 4 jours parce que tu n'as peut-être pas été suffisamment récurrent dans ton approche et du coup, tu fais une performance moins intéressante, je sais pas.
Et on revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire ton comportement de dire « je m'assois sur mes mains, je comprends qu'il est plus important de rester exposé » versus quelqu'un qui voudrait utiliser son intelligence en disant « moi, je suis plus malin que le marché, je vais rentrer au bon moment, je vais sortir au bon moment et je vais venir fructifier tout ça. » On voit là que le comportement est beaucoup plus payant que l'intelligence.
Mais vous voyez, par exemple, ce point-là, à la fin du livre, il en parle et il dit « mais tous les amis qui sont autour de moi, enfin, c'est des personnes qui investissent et qui travaillent dans le métier. Et eux, en fait, c'est leur but. Ils sont dans des fonds spéculatifs et leur objectif, c'est de battre le marché. Et il peut pas dire que ces gens-là ont aucun sens. Et c'est ce que tu disais, Julien, en fait. Le fait de dire, c'est quoi ta stratégie? On n'est pas là pour dire qu'il faut pas faire de stock picking. C'est pas du tout l'objectif. Et moi-même, je suis content d'avoir quelques actions qui sont à moi, et je sais que c'est mon compte et que c'est mes actions. Mais avoir en tête quand même que c'est pas ça qui potentiellement vous rendra riche, ça vous permet déjà de comprendre, ok, je vais pas faire fausse route, je vais déjà réfléchir à d'autres stratégies qui, elles, ont beaucoup plus de chances de m'amener là où je veux aller.
Absolument. Moi, c'est un autre passage du livre qui m'a inspiré ou qui m'a accroché plus particulièrement. En fait, c'est quand il parle à un moment donné. Alors, j'ai oublié le titre exactement de ce chapitre, mais c'est pas... Ah, si, je viens de le retrouver là. C'est le premier, en fait.
Personne n'est cinglé.
Je me suis arrêté au premier chapitre. Ils l'ont traduit comme ça, OK. So, no one's crazy. Personne n'est cinglé. Et en fait, c'est cette idée que la folie est dans l'œil de celui qui regarde. Et ça me parle bien. En gros, il explique, tu vois, moi j'avais tendance des fois un peu, je pense qu'il faut toujours se garder un peu d'humilité et puis de rester vigilant par rapport à ça, mais on peut des fois avoir tendance à juger les actions des autres. Et en finance, tu vois, ou dans ton dans l'économie personnelle, quand tu vois quelqu'un qui a tel type de dépenses, tu peux être amené, tu vois, secrètement à le juger en disant là, mais pourquoi il fait ça avec son argent, moi j'aurais pas fait ça, ou des choses comme ça. Pourquoi il a acheté telle voiture, ou pourquoi il dépense tant d'argent dans des cigarettes ou de l'alcool, ou là il prend l'exemple de la loterie.
Ouais, très bon exemple.
Et en gros, il explique qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui disait qu'en moyenne, les personnes les plus pauvres en fait des États-Unis, donc on va dire la première classe sociale des États-Unis, ils dépensent en moyenne $400 par an dans le loto. Donc le loto, des fois, on dit c'est l'impôt volontaire, donc c'est les gens volontairement qui vont donner cet argent parce qu'on sait que ça va dans les caisses du gouvernement après. Donc ils vont dépenser $400 par année. Et il y a une autre étude, qui n'est pas corrélée, qui dit que la plupart de ces personnes de cette même classe sociale-là ne peuvent pas subvenir à une dépense urgente de santé à hauteur de $400. Donc en gros, le lien, tu le fais, tu te dis, mais attends, est-ce que ces gens-là, ils ont joué au loto leur
petite épargne,
buffer de sécurité, leur petite épargne de sécurité si jamais tu as un problème de santé? urgent que tu n'avais pas prévu, que tu prévois jamais de toute façon, la santé. Et là, sur le coup, tout de suite, tu vas dire, bah, voyons donc, c'est ridicule, tu vois, déjà, ils sont dans des conditions, voilà, c'est pas facile, bah, d'autant plus, quoi, aidez-vous les gars et dépensez pas au loto. Et en fait, dans le livre, il te switch le truc parce qu'il te dit, en fait, tout ça, c'est qu'une question de perspective. Et ce que toi, tu fais peut avoir du sens pour toi, mais peut paraître fou pour quelqu'un d'autre.
Mettez-vous à la place de ces personnes-là.
Exactement. Donc là, il prend l'exemple et il dit, mettons-nous un instant dans leur perspective à eux. Donc là, il essaie de peindre le tableau. Il dit, imagine, tu vis le mois, à chaque chèque de paye que tu reçois, tu n'as pas vraiment de vision du futur, tu n'as pas été dans des grandes écoles, tu n'as pas vraiment de diplôme, tu n'as pas une idée de carrière incroyable qui se profile. Ou tu sais, des fois, ça peut être excitant quand tu as le diplôme, tu as une vision, tu sais où tu t'en vas. Là, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça, il n'y a aucune carrière qui t'attend. Tu ne peux pas te permettre aucune dépense de luxe. Donc, tu ne pars pas en voyage, tu n'auras pas jamais de belles voitures, tu n'auras jamais de beaux vêtements, tu n'auras jamais de belles montres, tu n'auras jamais tout ça, tout ce que tu peux imaginer. Et si tu as des enfants, bah, tu n'es pas capable de les envoyer dans des bonnes écoles, à moins de t'endetter que tu ne seras plus capable de t'en sortir. Donc, quand tu as tout ça, finalement, est-ce que c'est si illogique que ça de jouer au loto?
Ben non, ils achètent,
parce que le loto, c'est quoi,
rêve,
un ticket,
en fait. Ils achètent du rêve, ils achètent une idée.
Exactement. Mmh. En fait, c'est comme s'ils s'autorisaient eux aussi à rêver. Et ils s'autorisaient à croire que même si c'est, il y a peu de chances que ça marche, mais si ça marche, ils sortent de cette situation. Mais peu de chances, c'est mieux que rien dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? J'aime mieux avoir 0,0001% que rien du tout et je reste dans ma vie de merde. Fait que je grossis les traits un peu, là, puis lui aussi dans son livre. Et j'espère que ça choque personne. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, de revenir un peu sur ce qu'on fait et de dire, finalement, ce que moi, je fais, ça a du sens pour moi. Et je trouve que c'est intéressant aussi, ça peut t'enlever une certaine pression que tu as pu te mettre, tu vois, dans ta vie. Tu dis, mais tiens, pourquoi je suis très critique par rapport à mes dépenses ou par rapport à tout ce que j'ai fait dans mon parcours jusqu'à maintenant. Et il y a des fois, je me dis, ouais, mais attends, si j'ai fait ça, c'est parce que ça faisait du sens à ce moment-là pour moi. Mmh. J'ai pris ce risque-là parce que ça faisait du sens. J'ai fait cette dépense-là parce qu'elle avait du sens. Et en fait, je trouve que ça nous enlève un poids, une responsabilité qu'on ne devrait pas assumer. Et en fait, là, j'avais noté, c'était dans un interview que Martin Latulippe avait donné dans son podcast L'École du succès. J'oublie le nom de cette personne-là, mais c'était une coureuse olympique. Et en gros, elle disait, je suis plus que mon résultat. Je suis plus que ma performance. Et ça, c'est une bonne stratégie parce que quand tu penses comme ça, le jour où tu vas perdre, tu sais que tu vaux plus que ça. Et le jour où tu vas gagner, bah, tu vas rester humble et tu vas dire, je vaux plus que ça aussi.
Et je peux faire plus.
Donc, de ne pas finalement t'identifier à tes résultats ou à ta performance, si tu veux, sur les marchés, puisqu'on parle de ça, mais plutôt penser en tant qu'individu à tes comportements, à pourquoi tu agis comme ça, et comprendre que derrière, il y a un sens. Et après, si tu veux changer des comportements, ce n'est pas une fatalité. Ben, tu peux revenir à la racine de pourquoi tu le fais et de pourquoi ça fait du sens pour toi et potentiellement corriger un peu si tu en sens le besoin. Tu vois. Donc voilà, moi, ce qui m'avait marqué plus particulièrement dans ce livre-là.
Ce qui était intéressant dans ce chapitre 1, que j'ai beaucoup aimé, moi, de mon côté, parce que toi, tu as pris l'aspect vraiment... l'exemple qui brosse au début, puis après, il le met vraiment en parallèle avec la finance et comment tu peux finalement l'entendre dans le domaine financier. Et ce qui dépeint ici, c'est de dire que chaque génération va investir d'une certaine manière. Et tu vas potentiellement penser que la génération qui est au-dessus de toi, qui elle a vécu une histoire très très spécifique par rapport à sa timeline, par rapport à là où il était, est complètement fou par rapport à ce que toi t'as vécu. Typiquement, bah, nous, tu vois, les millennials, on a vécu dans les 30 dernières années où il n'y avait aucune inflation, donc on ne sait pas ce que c'est que l'inflation. Et donc du coup, on va potentiellement investir d'une certaine manière que les personnes qui étaient nées plutôt dans les années 60, 50, qui eux ont vécu une inflation importante à cause des chocs pétroliers, bah eux, typiquement, ils n'auraient jamais investi dans des obligations d'État. À l'inverse, nous, les obligations d'État, c'est quelque chose qu'on a vécu et dans laquelle on investit. Donc pour une personne née dans les années 60, bah c'est complètement idiot de faire ça, ce que nous on fait, et nous, c'est complètement idiot de faire ce que eux ils faisaient eux. Alors, je sais plus en l'occurrence qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ça aurait été idiot de faire exactement la même chose. Et en fait, c'est juste un point de vue, finalement. Et typiquement, ce que ça te donne aussi comme leçon, c'est que ça te dit, bah, si mes éléments changent et que mon statut change, je risque d'avoir un problème, c'est que je vais garder en fait mes habitudes des 30 dernières années. Typiquement, là, on revoit l'inflation qui apparaît. Beaucoup de gens pensaient qu'il serait certainement peut-être éphémère, hein, juste Covid et puis that's it. Non, 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 on est potentiellement re-rentré dans un cycle long d'inflation. Et donc en fait, ça va rechanger notre manière d'investir. Et ça, il faut l'entendre. Parce que si tu l'entends pas maintenant, bah potentiellement, tu vas rester dans ton schéma des 30 dernières années et attendre des résultats qui n'arriveront jamais.
C'est intéressant parce que tu apportes une nuance encore à ce que vient de dire Julien, parce que là, dans ce que j'entendais de Julien, il y avait cette vision vraiment des valeurs qui pourraient donner du sens. Et du coup, je voulais faire juste un petit, comment
Bien
dire,
sûr.
rebondir là-dessus, parce que j'ai un de mes mentors qui avait si, enfin, comment dire, qui avait illustré quelque chose que j'avais trouvé qui avait beaucoup de sens. Il disait, en gros, concrètement, si aujourd'hui, il y a des personnes, des fois, qui veulent courir après l'argent, etc. Et en fait, il lui disait, bah, je sais pas, moi, admettons, aujourd'hui, je vais penser pour moi, par exemple, tu as une super santé, tu es en super forme, tu es content de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu échangerais cette santé contre 1 million d'euros? Et il pouvait questionner ça pour que vous puissiez le transposer dans plein d'autres choses. Ça pourrait être avoir tes enfants, avoir ta copine, voilà, bref, quelque chose qui est important pour toi. Et si en fait c'est vraiment important pour la personne, je pense pour moi par rapport à ma santé, bah en fait tu hésites et en fait la réponse c'est non en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, même si t'as pas 1 million, vu que ta santé, elle vaut 1 million pour toi, puisque tu es capable de la garder et pas de l'échanger, ça veut dire que tu es déjà riche à quelque part d'1 million, mais pas par de l'argent, mais par quelque chose que tu possèdes d'une certaine façon, qui a de la valeur à tes yeux. Et en l'occurrence, de la santé, ça peut être une famille, ça peut être, je sais pas, une bonne situation dans ton travail, j'en sais rien. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant de voir que nos valeurs, en effet, on en avait parlé dans les épisodes précédents, vont nous influencer dans nos comportements et on va toujours privilégier davantage quelque chose qui a plus de sens à nos yeux que quelque chose qui en a moins. Et là, ce que tu rajoutes, François, du coup, c'est que notre environnement et notre... alors on pourrait peut-être rajouter peut-être culture, etc., éducation, mais même au niveau voilà, climat, situation actuelle, économique, etc., va aussi avoir une influence dans nos comportements,
Tout à
au-delà
fait,
en plus
tout à fait,
de
c'est exactement
l'aspect
ça. C'est ça
valeur.
que je voulais rajouter
C'est ça? Ok.
qui permettait surtout d'aborder le côté financier. Qu'est-ce qu'on en retient finalement sur la partie financière? Et j'ai peut-être pas assez bien conclu quand même sur. Parce que c'est vrai que j'ai pris quelques notes, du coup j'ai pu re-regarder sur le chapitre 6, et je trouve que sa conclusion est intéressante aussi de cette idée de longue traîne. Lui, ce qu'il en conclut, c'est qu'on peut se tromper une fois sur deux et faire fortune quand même. Et c'est vrai que ça enlève un poids. J'ai l'impression, une pression, de se dire finalement que mes résultats, en effet, si bah je vais potentiellement avoir des résultats à cause de quelque chose qui est un peu extraordinaire, qui va sortir de l'ordinaire. Hein. Bien sûr, il va falloir que j'agisse pour pouvoir l'avoir, on est bien d'accord, mais vu que c'est quelque chose qui est quand même pas naturel, qui sort quand même des statistiques, et ben en fait, ça m'enlève cette responsabilité que c'est moi qui maîtrise, d'une certaine manière. Ça veut pas dire qu'on enlève sa responsabilité, hein. C'est bien pour ça que je dis, c'est quand même les actions que tu vas mettre en place qui vont permettre d'avoir cet accident, mais en même temps, t'as le droit de te tromper. T'as le droit de faire plein d'erreurs avant finalement d'avoir les résultats escomptés.
Bon, en tout cas, ça fait envie, hein. On voit qu'il y a plein de choses, ça a l'air
C'est tellement
d'être
vaste,
très
c'est
complet.
vaste,
Ah,
c'est une mine.
c'est une mine,
C'est
une
une
mine
mine.
d'or ce livre.
Alors, bah justement, si c'est une mine, j'ai une autre question pour vous. Vous qui êtes quand même très passionné, hein, beaucoup plus que moi, hein, parce que voilà, je sens que c'est pour vous quelque chose de très fort, l'investissement, etc., la psychologie, l'argent. Est-ce que vous aviez appris quelque chose de nouveau en lisant ce livre? Et si oui, quoi? Ou est-ce que ça a peut-être approfondi une notion que vous aviez vue dans un autre livre, mais que vous l'avez redécouvert d'une certaine façon?
Ouais, moi je pense que c'est plutôt le deuxième aspect, c'est-à-dire que Oui, ici et là, il y a des choses que, bien sûr, que j'ignorais, ou des illustrations, des exemples précis, en fait, qui te dit, ah, tu sais, par exemple, il parle d'une personne, donc c'est Ronald Reed, qui était un janitor, donc un technicien de surface, si tu veux, en bon français, et qui a fini à sa retraite, en fait, quand il est mort. Les gens l'ignoraient, mais en fait, il avait un patrimoine de 8 millions. Donc, tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça. Et c'est un gars, en fait, il n'a pas hérité de cet argent, hein, ou il n'a pas fait du trafic de drogue les week-ends, tu vois. C'était juste parce qu'il avait un bon comportement, qu'il avait investi sur de long terme, il avait fait jouer l'effet cumulé, etc. Il avait eu finalement tous les bons comportements, et même sans avoir gagné énormément d'argent, il a pu finir multimillionnaire. Et donc, il y a des petites histoires comme ça que j'aime bien parce que ça m'a permis d'illustrer, voilà, l'effet cumulé. Typiquement, là, tu as une histoire à raconter pour l'illustrer, pour dire que c'est accessible à tous. Mais c'est surtout moi ce qui m'a parlé dans ce livre, c'est, tu sais, quand tu as une espèce de truc que tu entends
Ouais, j'adore
et
ça.
ça résonne en toi comme
Ouais.
si tu connaissais déjà ça, comme une espèce de vérité intérieure, et tu dis, putain, c'est tellement simple que c'en est évident, mais j'aurais jamais pu le poser dans ces
Tout à
mots-là.
fait.
Et je trouve que c'est ça la force de l'auteur, c'est de dire des choses qui sont extrêmement simples, mais de les expliquer avec les bons mots pour que tu les comprennes. Et que tu les remettes
Ouais, c'est ça.
en
Bah oui,
évidence, en
parce que
fait, dans
sinon
ta
c'est de l'ordre de
conscience.
l'inconscient, alors que là c'est mis en mots et du coup tu peux en parler, tu peux débattre, tu peux observer ce comportement, peut-être le modifier ou ouais, ok.
Ouais. Puis tu sais, c'est probablement pas l'objectif du livre, c'est probablement pas d'être exhaustif sur tout ce que tu dois toucher, en fait, hein, pour réussir un investissement. Mais malgré tout, tu vois, si on parle aujourd'hui d'argent, tu
Bah c'est
commences par
ça.
où? C'est compliqué, quoi. Tu vois, tu dois parler de croyances, tu dois parler de culture, tu dois parler de système financier, tu dois parler de capitalisme,
Ouais,
tu dois parler donc des différences entre les pays, tu dois parler des marchés, des
de la
actions,
politique même
c'est
peut-être.
ultra compliqué comme sujet,
Ouais,
c'est un
bien
des
sûr.
sujets les plus
C'est
vastes.
énorme. C'est...
Et oui, exactement. Donc c'est intéressant que bah, lui, je trouve, il a vraiment les chapitres font sens et il a vraiment. Donc c'est clair que ça parle plutôt de la psychologie, bien sûr. Hein, c'est pas encore une fois, c'est pas complet sur. Il n'a pas abordé tous les sujets à aborder. Mais au moins sur la psychologie, les comportements, je trouve qu'il a vraiment un plan qui fait du sens et qui te permet toi après de t'y référer un peu comme un espèce d'arbre, tu vois, ou un espèce de, comment on appelle ça déjà, les,
Mind mapping, ouais.
Ah,
tu
les
sais, tu l'utilises toi
mind map, ouais,
Christian,
les
le
schémas
mind
heuristiques,
mapping, tu
ouais.
vois, un espèce de mind map, super intéressant. Des fois, ça permet de regrouper tes idées aussi et de les faire rebondir.
En même temps, ça fait beaucoup de sens parce que, comme tu le disais au début, on peut pas tout connaître. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce livre va s'adresser aussi bien à un novice qui veut débuter que quelqu'un de confirmé. Parce que vu qu'en fait, le facteur qui est tout le temps commun, c'est l'être humain. Quand tu as compris en fait la psychologie qu'il y a derrière, en fait, finalement, tu as déjà une part qui est extrêmement importante sur ce qui va jouer et comment justement tu peux reprendre ta responsabilité là-dedans. Donc je trouve que c'est intelligent
Absolument.
de sa part en fait. Ok, merci Julien pour ton partage. François, est-ce que tu as pareil appris quelque chose ou approfondi quelque chose? Et si oui, quoi?
Ouais, moi je suis assez d'accord avec Julien. C'est tout à fait ce sentiment que j'avais, que tu as très bien décrit, Julien, sur le fait qu'il l'impose comme des vérités générales. Enfin, c'est pas des vérités générales parce qu'il est toujours dans le, quand même dans. Il apporte toujours un argument, enfin, c'est pas genre juste je dis ça et puis c'est argent comptant, mais comme des notions qui ont du sens et que quand tu lis l'histoire et que t'as vu le truc, tu dis ah bah ouais, en fait, je le savais depuis le début, quoi. Et j'ai ressenti ça avec un autre livre qui est pour moi, en fait, un livre très important sur la notion de l'argent, c'est Père riche et Père pauvre. Donc, moi, je fais beaucoup de parallèles, en tout cas, je trouve que Morgan va beaucoup plus loin. Que Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, en fait, il a vraiment posé quelque chose d'important dans le socle de la richesse et il permet vraiment de casser des idées préconçues. Morgan le fait beaucoup plus subtilement. Et je trouve que ça a le mérite de le noter. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture de A à Z. Et à chaque fois, ça faisait très écho. À chaque fois, j'arrivais à trouver. Des parallèles dans ma vie sur les différents points qu'il avait cités. Je pense qu'il y a un truc qui m'avait bien intéressé et comme ça là que je dirais, c'est la différence entre richesse et fortune. que j'avais pas forcément en tête et que je trouve qui est très vrai. Finalement, la richesse, elle renvoie à un revenu présent, à ce qu'on possède, à ce qu'on montre aux gens. Le fait d'avoir voilà, une voiture, une villa, être endetté, c'est de la richesse. Et à l'inverse, la fortune, c'est ce qui est invisible. C'est ce qui est sur son compte épargne, c'est ce qu'on ne voit pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette différence entre richesse et fortune, parce que je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens font, et c'est pour ça que je trouve que ce livre va même encore plus loin, quand je disais au début de la psychologie de l'argent. Je pense qu'au fond de lui, l'auteur voulait donner un essai sur comment devenir heureux. Quelle est la clé du bonheur?
Ouais,
Et
c'est bien dit.
il note plusieurs fois dans son livre, à plusieurs passages, que pour lui, potentiellement, l'une des clés du bonheur, il le dit dans un des chapitres, c'est d'avoir la maîtrise de son temps. Quelque chose qui nous rassemble ici, clairement. Si on fait ce podcast et qu'on avance sur là où on veut avancer dans nos projets, c'est pour reprendre le contrôle de notre temps. Et c'est ça que l'argent peut nous apporter. C'est cette maîtrise de son temps. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec cette idée de richesse et de fortune, les gens se fourvoient. Ils cherchent la fortune, mais ils se font corrompre par la richesse. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir maîtriser leur temps. Mais au final, dès qu'ils ont atteint un certain lifestyle, ils dépensent tout. Et ils oublient, en fait, finalement, que ben, ce qu'ils sont en train de faire, ça va liquider leur fortune et qu'ils vont juste être un riche parmi plein de gens. Et qu'au final, potentiellement, ils vont finir broke. Ils vont finir fauchés. Et j'ai vraiment qu'il y a comme cette dissonance en fait quand on regarde vraiment ce que les gens font dans la réalité. Qu'ils investissent, ils récupèrent leur profit
Je
et
pense
puis
qu'il y
hop,
a...
après ils font de la merde.
il y a un raccourci mental en fait. Je pense qu'il y a un raccourci mental des gens où tu te dis, et d'ailleurs c'est un peu erroné parce que tu peux te dire, bon, quelqu'un qui est vraiment riche, qui a vraiment amassé une fortune, ben, il peut se permettre de se payer une belle voiture, il peut se permettre de s'habiller, machin, d'aller dans tel restaurant, d'aller en vacances 10 fois par an. Et en fait, le raccourci mental, c'est de te dire, ben, si je suis capable d'avoir ça, ben,
Tout à fait.
j'ai le même succès en fait. Donc si je suis capable d'avoir,
Ouais.
j'ai le être. Alors qu'en fait, tu peux pas court-circuiter le être. Et d'ailleurs, les vraies personnes que moi, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête, des personnes qui sont vraiment fortunées, en fait,
Mais
ils
bien
font même
sûr.
pas ces dépenses de pauvres. Ils vont toujours faire une dépense qui est
Mais
cohérente. Regarde
bien
Warren
sûr.
Buffett, tu vois, qui va au McDonald's et qui paye avec sa petite monnaie
Bien sûr.
machin. Le mec, il pourrait bouffer dans des 5 étoiles jusqu'à la fin de sa vie. Mais lui, il aime bien en fait, il s'en fout, tu vois, et ça fait du sens le budget par rapport à ce que ça représente pour lui, tu vois. Ça ne veut pas dire que le mec, il se fait jamais plaisir, mais d'ailleurs, il donne beaucoup à sa famille, etc. Il y a plein de projets. Mais c'est ça. En tout cas, je trouve ça intéressant. Mais c'est bien ce que tu dis, François. C'est vrai qu'on sent un peu la volonté de l'auteur derrière de nous dire, on parle d'argent, mais ce n'est pas ça le plus important. Et comment l'argent peut vous aider à être heureux. Et je trouve ça beau la façon dont
Je
tu l'as dit.
trouve il y a vraiment
Ouais.
cette idée aussi de pas forcément attaquer le capitalisme. Alors bien sûr, on s'entend nous-mêmes, on vit dans cette société et puis on utilise les règles qui sont à notre disposition et je suis pas sûr pourtant qu'on soit des fervents capitalistes à tout prix. Je trouve qu'il dépeint un capitalisme qui me plaît. C'est pas un capitalisme à outrance qui va dans une surconsommation à tout prix. Il y a pas mal de valeurs sur lesquelles on se retrouve. Peut-être j'aurai le temps d'en parler d'une qui m'a beaucoup impacté.
Là, tu me tends la perche là pour quelque chose que j'avais noté, si tu m'autorises
Ah bah
question,
oui, complètement, lui aussi, c'est vivant.
c'est peut-être que l'on ne respecte pas une de tes questions, mais tu le dis, François, et du coup, moi, je l'avais noté. Une des choses que le capitalisme, en fait, le capitalisme est bon pour créer deux choses. La première, c'est la richesse, et la deuxième, c'est l'envie. Et là, on parle justement de ça, de l'envie peut-être d'acquérir, de posséder, d'avoir les mêmes accès au même
Tout à fait.
luxe que des personnes qui ont beaucoup réussi. Et en fait, c'est un des chapitres, c'est
Oui.
le jamais assez.
Oui.
qu'il aborde. Et moi, c'est un chapitre qui m'a beaucoup parlé parce que forcément, je les mettais en perspective par
Tout à
rapport au
fait.
comportement que j'avais eu sur des gains que j'avais réalisés. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi finalement j'ai pris ce risque? Parce qu'il y a un truc qui dit, c'est tu devrais jamais risquer ce que tu as et ce que tu as besoin pour quelque chose que tu n'as pas et que tu n'as pas
C'est trop
besoin.
bien.
Et en fait, je me suis dit, ok, mais alors du coup, si j'étais prêt à remettre en risque la somme que j'avais accumulée par la crypto-monnaie, qui était un capital conséquent, qui aurait pu être un très beau point de départ finalement dans mon parcours, aujourd'hui je le vois avec ces yeux-là. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je ne m'étais pas contenté de ça. C'est que dans ma tête, j'avais envie de plus. Et tu vois, pour te donner un petit exemple aussi, j'ai noté quelques chiffres. Aux États-Unis, encore une fois, on va parler du. C'est un Américain qui a écrit le livre, puis on parle quand même beaucoup. Quand on parle de capitalisme, veut, veut pas, on parle beaucoup des États-Unis. Mais pour donner quelques chiffres, alors je ne sais pas si c'est encore actuel, mais pour faire partie du 1% aux États-Unis, faut que tu gagnes à peu près un peu plus que 500 000 par année. Donc un demi-million par année, tu fais partie du 1%. Et en fait, tu vois, bon, bah, clairement, nous, on a pas cet argent-là, tu vois. Je fais même pas. Je fais un dixième de ça, on va dire. Même pas. Si je fais avec le taux de change. Quand tu t'imagines gagner cet argent-là, dans ta tête, tu dis, c'est sûr que ça va être assez pour moi, tu comprends? C'est sûr qu'un demi-million par année, je suis tranquille. Et ben en fait, il faut savoir que ces gens-là, ils ont aussi des points de repère qui sont différents. Ils vont donc regarder des gens qui sont plus riches qu'eux. Et si tu regardes, donc là, par exemple, on prend l'exemple, je sais pas, d'un médecin que tu vois, qui gagne ça, puis là, il commence à regarder un CEO d'entreprise, un mec qui a une boîte, un entrepreneur et tout, et le gars, il fait 10 millions par an. Ben avec 10 millions par an, tu deviens le 1% du 1%. D'accord? Donc, sur le 1%, toi, tu fais partie du 1%. On oublie là déjà tous les autres. Tu dis, putain, 10 millions, là, je suis au top, quoi. Et ben 10 millions, si tu compares par rapport à la fortune de Michael Jordan, c'est 2 milliards. Donc en fait, lui, il est dans le 1% du 1% du 1%. Et là, tu vas te dire, ok, bah, c'est bon, quoi. Michael Jordan, on est tranquille, quoi. On profite, on kiffe. Et je ne sais pas, tu vois, je ne connais pas Michael Jordan, mais lui pourrait potentiellement se regarder d'autres personnes. Il pourrait regarder Jeff Bezos, par exemple. Puis Jeff Bezos, bah, on parle de 200 milliards. Donc, en fait, tout ça pour dire que finalement,
Infini,
c'est un
ça n'a pas
truc
de fin.
qui n'a pas de fin. Tu vas toujours te reporter, tu auras toujours un mec plus riche que toi. Et en fait, ça ne devrait pas être ta règle à mesurer. Ça ne devrait pas être ça que tu regardes pour déterminer ta richesse, parce que si tu le fais, bah c'est un piège et tu n'auras jamais assez. Donc comment tu ramènes à des choses qui font sens pour toi par rapport au style de vie que tu veux et que quand tu as atteint ton objectif, c'est correct aussi. Tu vois?
Ouais, c'est ce que
François,
j'ai
tu veux
beaucoup aimé,
réagir?
la métaphore qu'il a utilisée pour expliquer cette problématique du assez, ce n'est pas trop peu. Il utilise en fait l'idée qu'une personne, par exemple, voudrait manger jusqu'à s'en faire vomir. On voit bien que dans l'idée, c'est, enfin, ça va, tu vas avoir tellement de souffrance dans l'idée que tu vas bouffer jusqu'à t'en faire vomir que jamais tu le feras, tu vois. Ça paraît évident. Et
Ou alors il
pour
y a une maladie
où
derrière,
il y a une
quoi.
maladie, et il y a une
Et
maladie, on est
il y a un
d'accord.
manque, en fait, il y a un besoin de combler quelque chose. Ouais.
Et j'ai l'impression que avec l'argent et avec l'investissement, on oublie ça.
Ah bah ouais, non, mais
Moi,
c'est.
je pense qu'il y a la même maladie que Christian évoque,
Ah ouais, je
c'est-à-dire
pense
que
qu'il y
si
a
tu as
un.
besoin d'accumuler autant de richesses, tu as une maladie, tu veux combler quelque
Il y a
chose.
l'impression que moi, à
Christian,
mon avis, le
j'ai
comportement
l'impression que ça touche
être
plus de
un
gens.
symptôme de
Ça
quelque
touche
chose
plus
de
de
plus
gens. Tu vas
profond.
pas avoir 90% de la population qui va en manger jusqu'à s'en faire vomir, tu vois. Pourtant, je pense que 90% des
Oui, c'est
gens, ils
oui.
agissent comme ça avec l'argent. Tu vois,
C'est moins décrié, c'est moins pointé du doigt, peut-être aussi.
c'est, tu veux dire vomir, manger sans faire vomir?
Non, je parle de l'argent. Tu vois, quelqu'un qui
Oui,
va
voilà, c'est
manger jusqu'à
ça.
s'en faire
Mais
vomir,
c'est
c'est quand
ça.
même. Enfin, la personne, limite, elle va se cacher pour le
Exactement.
faire, tu
Et
vois, elle
moi,
a
tu vois,
honte de ce comportement. Alors que l'autre, c'est
ça me
comme quelque
faisait
chose de
penser à un
normal.
film, ça m'a fait penser à Las Vegas
Alors que c'est
21.
pas normal.
Où il dit, tu sais, qu'il s'arrêtera
Ouais.
quand il aura atteint
Ouais. Oui,
tel
oui, oui,
chiffre.
oui.
Et c'est quelqu'un, tu vois, qui pourtant est, on peut le dire, est quand même, je pense, assez intelligent pour se dire, bon, faut que je m'arrête, je m'arrête. C'est quelqu'un qui, techniquement, a été choisi pour être froid dans ses décisions et dans son calcul de cartes. Et pourtant, il n'y arrive pas.
Ouais,
Et
mais
c'est
là on appuie
ça
sur
qui est clé.
l'émotionnel.
Et mais c'est ça
On est dans
que.
de l'émotionnel. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que il parle, je crois, ce livre, il parle aussi d'émotions.
Totalement. Et
Parce que j'imagine que c'est un facteur qui est extrêmement important, au-delà du comportement, vu qu'en plus, j'imagine qu'émotion et
Tout est lié.
comportement, c'est lié. Du coup,
Et moi, j'ai
ouais,
beaucoup aimé la
intéressant.
suite de chapitre de Julien, qui en fait, donc le chapitre 4, ce qu'il dit, c'est que il y a des choses qui valent beaucoup plus finalement, qui n'ont pas de prix et qu'on oublie. Et c'est vrai de se les rappeler. Ça permet de se dire, j'en ai assez. Et tu vois, j'ai noté ça parce que ça m'avait fait, et c'est peut-être cette idée d'ode un peu à la vie, au bonheur qui sont dans ces lignes un petit peu. Jouir du respect des autres est une chose inestimable. Être libre et indépendant est une chose inestimable. Avoir une famille et des amis est une chose inestimable. Être aimé de ceux dont vous souhaitez être aimé est une chose inestimable. Être heureux est une chose inestimable. Et ça, c'est des choses qu'on oublie. Quand on est happé par l'argent, quand on a commencé à avoir des sommes qu'on n'oserait même pas imaginer, on oublie tout ça. Comme si notre cerveau, il oubliait.
Ouais. Bah,
Voir, tu vas le mettre
voire
en
tu vas le
péril.
mettre en péril.
Oui, en plus, c'est ça, c'est que tu vas le dépenser alors que c'est inestimable en échange de quelque chose qui est estimable, qui est mesurable, qui va, qui vient. Alors que je me souviens qu'il y
Et dont tu
avait.
n'as pas besoin.
Oui, que tu en as.
Que froidement, comme tu disais, Julien, Christian? Tout à l'heure, par rapport à ce que ton coach disait là, l'idée que bah, est-ce que je vendrais ma santé pour 1 million? Techniquement, tu dirais non. Mais quand tu as la tête dans le
Non.
guidon et que
Ah
tu
ben
es en
non.
train de faire des gains ou que tu es en train de. Ou à l'inverse, de faire de la merde, enfin je sais pas, peu
Ouais, de
importe, à
rester sur
rester
les
sur les écrans, à
écrans,
faire de la merde, à
ouais.
trader. Et ça, tu vois, typiquement, c'est une des notions dans le livre que j'ai adoré. Et c'est à la fin, c'est ce qu'il dit dans les derniers chapitres. C'est en gros. La bonne stratégie, c'est la stratégie qui te fera dormir. Où tu pourras dormir tous les soirs sur tes deux oreilles. C'est ça ta bonne
Ouais.
stratégie. Jamais tu devrais
Ah oui, sinon tu peux.
à ne pas dormir.
Jamais tu devras avoir la boule au ventre à regarder ton
Ouais.
téléphone
Ah
toutes
non,
les
mais c'est
5
sûr.
minutes.
Bah, c'est sûr. C'est pas quelque chose qui peut être conçu sur du long terme. Alors que j'ai l'impression qu'il encourage quand même plutôt des investissements long terme que court
Exactement.
terme, de ce que
Exactement.
j'ai lu
C'est
dans
du
les
long
grandes
terme,
lignes.
clairement.
Et d'ailleurs, je voulais rebondir là sur une citation. Alors, j'ai plus le nom, la paternité de ça, et puis dans le détail, mais en gros, c'est sûr que vous l'avez déjà lu sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui passe souvent, mais en gros, il cite plusieurs situations de vie et en disant, bah, l'argent achète ça, mais par contre, ça, vous pouvez pas l'acheter. Genre, je sais pas moi, l'argent va peut-être attirer des relations, mais vous achèterez pas l'amitié. Pareil pour la santé, on peut acheter des médicaments, mais on peut pas acheter la santé. Et on peut faire ça sur plein d'éléments. Le bonheur, pareil. Et à chaque fois que tu disais ça, c'est inestimable dans les citations de ce que tu as cité, François, bah, j'ai l'impression que c'était des choses que concrètement qui ne sont pas monnayables. C'est-à-dire que tu peux pas échanger contre de l'argent. Et ça fait tout son sens du
Totalement.
coup.
Totalement.
Ouais.
Et.
Absolument. Tu veux nous
Non,
donner une autre
t'inquiète.
question? Ah
Et
ouais,
tu vois,
pardon. François,
parce que
vas-y.
là, je
Tu
relis
voulais
encore mes
conclure.
notes et puis je tombe dessus. Et du coup, ça me fait dire la suite aussi de ça. C'est le chapitre 8, donc qui est un peu plus loin dans l'idée, mais où il va te dire, ce que vous possédez n'impressionne personne autant que vous.
Ouais, ça c'est cool.
Et ça revient dans cette idée que bah coup assez c'est assez quoi, je veux dire arrête de déconner.
Attends, redis ça?
Ce que vous possédez n'impressionne personne autant que vous. C'est-à-dire que finalement tu t'achètes une Ferrari pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'achètes et croire que les personnes qui en face regardent la Ferrari t'estiment toi, ils s'en battent les couilles. Ce qu'ils estiment, c'est juste la voiture. Ils s'en foutent du conducteur. Et ça, c'est une leçon aussi qui met une petite claque.
C'est vrai, hein. À aucun moment tu vois une belle voiture en te disant putain, c'est qui l'a conduit et tout, je serais curieux de savoir ce gars-là. À aucun moment tu fais juste regarder la voiture, tu te dis putain, ça doit coûter cher.
Si je devais faire mon avocat du diable, t'as maintenant le gars là, qui va interviewer le TikToker, qui va
Ouais.
interviewer les gens pour dire What do you for a living?
Mais même là.
Mais même
Même
là,
là, tu te
au
rappelles plus de la
fond,
voiture que de la personne qui la pilote.
c'est ça, exactement. Ou tu penses que du coup tu vas trouver un raccourci en faisant ce qu'il fait, lui, bah tu vas réussir à avoir la même voiture, quoi.
Ok,
Y a pas de raccourci.
question suivante. Allez, celle-là, je vais essayer de l'amener de façon un petit peu plus concrète. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de certaines vertus, et il me semble qu'il en parle dans le livre, l'importance de la patience, de la discipline en matière d'investissement. Comment ces concepts se sont-ils manifestés dans votre propre expérience d'investissement? Vous les avez mis en place. Et comme ça permettra peut-être d'illustrer par votre expérience comment ça peut concrètement se mettre en place.
Très bonne question. Julien, tu commences?
Ouais.
Vas-y.
Bah, moi, je peux répondre. Yes. Bah, dans le fond, moi, j'ai vraiment eu, là, j'ai shifté depuis, bah, vous le savez, parce qu'on en parle quand même en mastermind. Je ne saurais pas pointer précisément le moment charnière, mais ça fait quelques mois où je me sens dans une dynamique différente. Ça veut dire que je pense que j'ai accepté que je repartais de zéro. Et j'ai accepté que, comme on dit, il n'y a pas de free pass et qu'il faut faire les choses correctement. Et à tomber en amour avec le processus. Et en fait, c'est que moi, j'ai l'impression que jusque-là, mon idée, c'était il faut que je fasse de l'argent avec de l'argent. Parce que du coup, je hackais la matrice. Tu vois, on dit tout le temps, la plupart des gens, ils dépensent leur temps pour de l'argent. Après, tu as quelques personnes qui vont échanger leur argent pour de l'argent, donc via l'investissement ou autre. Et puis, le dernier truc et ultime, c'est échanger tes connaissances pour de l'argent. Et là, tu te décorrèles du temps, etc. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un truc bien connu. Et en fait, moi, j'étais resté stické là-dessus. Ça veut dire que dans ma tête, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'ai un certain capital que je fasse croître. On revient peut-être à l'épisode sur l'équation. Et finalement, que cet argent-là, ben derrière, ça allait être suffisant. Et j'en oubliais quelque chose de super important. En fait, c'est comment j'occupe mon temps.
Trop, trop bien. Trop bien. J'adore.
Qu'est-ce que je fais?
Très bien.
Tu vois, je reste chez nous, regarde mon écran avec mes bougies. C'est ce que j'ai voulu faire en 2019. Et c'est ce que j'ai voulu retenter en 2021 quand je suis revenu à Montréal et que je n'avais pas le droit de travailler. Donc c'est pareil, j'avais même un côté rébellion. Je me disais, ah ouais, j'ai pas le droit de travailler. Fuck you, j'ai Internet, je peux travailler. Mais mon travail, j'aurais pu faire plein de choses sur Internet. Mais j'avais encore choisi d'investir, etc., de faire du trading, pensant toujours qu'en étant plus actif, je pouvais faire plus d'argent. Et au final, comment j'ai mis en place, pour répondre à ta question du coup, ce côté long terme, ce côté comportement, je me suis dit, si aujourd'hui, j'ai pas les bons comportements, c'est pas quand j'aurai 1 million que j'aurai les bons comportements. Donc il faut dès maintenant que je mette en place une structure, que je bâtisse un palais,
un setup.
Et que le truc, il est là, c'est du béton.
Un setup comportemental.
Et derrière, parce que...
Hein, un setup comportemental.
Comme tu dis ? Ouais, un setup comportemental, un fucking palace, man. Et tu te dis, après ça, parce que... Et ça, c'est Gary Vee qui a dit ça à un moment donné. Moi, c'est ça que je complexe souvent par rapport à l'âge, parce que tu regardes, tu as plein de gamins de 20 ans qui ont réussi, au début de trentaine, qui sont déjà millionnaires. Et moi, j'ai 34 ans et je suis encore à zéro, tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être qu'il y a des gens qui me regarderaient et disent, bah là, t'es, ta gueule, t'es pas à zéro. Et il y en a d'autres qui me regarderaient et qui disent, ouais, t'es vraiment à zéro, punk, à 34 ans. Et Gary Vee le dit, hein, souvent à 34 ans, lui bossait pour son père, tu vois, il avait commencé à mettre en place certaines stratégies, mais en gros, il était personne, il avait pas un gros capital et tout. Et il fait une analogie, lui, alors c'est très américain, mais par rapport au sport. Et en fait, il dit, mais mon gars, t'es même pas à la mi-temps. Et quand tu penses à un match de, mettons, de soccer, tu vois, à un match de foot, bon, bah, t'as 90 minutes. Je te parle même pas des prolongations s'il y en a. Ben, le match, il est pas fini tant qu'il est pas fini, en fait. Puis ta vie, ben, c'est un match au complet. Le but, c'est pas d'avoir scoré 12 buts les 20 premières minutes, et après, tu fais quoi? Faut quand même tenir le match jusqu'à la fin. Donc, en fait, aujourd'hui, à 34 ans, puis tu sais, Christian, t'es pareil, t'es comme moi, François encore plus, on n'est même pas arrivé à la mi-temps. Fait que c'est correct si on est sur un match nul ou peut-être même que par rapport, et là je mets les gros guillemets, par rapport à ce qu'on aurait dû faire, etc., on est peut-être un peu en retard, on est peut-être un point, deux points en retard. Tout peut changer, la game peut changer complètement. Et ça, ça m'a redonné foi en fait, et de me dire, ok, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, il faut que je mette en place les bonnes choses. Et après, eh ben, c'est me concentrer sur mon revenu actif, prendre du plaisir dans mon emploi, créer des liens avec mes collègues, avec mes partenaires d'affaires, parce que ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me nourrissait au jour le jour. Et du coup, bah, tu deviens bon, tu commences à faire un salaire qui peut être intéressant, et ton salaire, dans ta tête, tu dis, bah, c'est cool déjà de faire ce salaire-là, mais ça ne s'arrête pas là, parce que je le rentre dans mon système, et ils vont faire des petits. Et en plus, j'ai le temps qui joue pour moi. Et là, dans ma tête, à chaque fois que je mets un truc, dans ma tête, je le multiplie par 10. Je me dis, voilà. Donc là, si je suis capable d'épargner 1000 dollars ce mois-ci, ça sera potentiellement 10 000 dollars un jour. Juste pour me donner la motivation d'épargner plus, plus, plus. Aujourd'hui, je suis arrivé, là, sur mon tableau Excel que j'ai fait et dont je vous ai déjà parlé, je suis arrivé certains mois à un taux d'épargne de 70% en payant mon loyer, en payant tout. Quand tu sais que ce qui est de façon générale, on préconise 10-20%, bon, on fait ce qu'on veut, mais 10-20%, c'est très bien. Quelqu'un qui try hard, c'est 50%. Putain, j'ai tapé du 70%. Je ne sais pas si c'est quelque chose de pérenne sur du long terme, mais juste parce que je l'ai fait ces 2-3 mois-là, bah, je me dis, il y a quelque chose que je fais qui est bien. et je reviens à ce que je contrôle et mon comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais me permettre de dépenser plus, mais je ne le fais pas. Je reste sur des trucs très basiques qui me nourrissent de toute façon, qui sont suffisants parce que c'est notre force, hein, je pense. Quand tu viens du bas peuple, quand tu viens des petites gens, bah, en fait, tu te contentes de presque rien. T'imagines quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche et de la soie tout autour du cul. Bah, ce gars-là, lui, il trouverait peut-être qu'il se trouverait malheureux dans un appart comme le mien. Moi, je suis super heureux. Il y a un parc à 2 minutes à pied. J'ai un voisin en bas que j'entends jamais, il est super discret. Je suis à côté du métro en 30 minutes, porte à porte, je suis au taf. J'habite à Montréal, c'est une ville incroyable, culturellement et tout ce que tu veux. Et bon, il y a juste les hivers qui font chier, mais c'est pas grave. Fait que, bref, là, je pars en prose, mais ce que je veux dire, et pour répondre à nouveau à ta question, ce que j'ai pris de ce livre-là, c'est vraiment la psychologie, les comportements, c'est ce qui est le plus important. Investir sur le long terme, ne pas juger les autres sur leur comportement, accepter qu'il va y avoir des choses inattendues, ce qu'on appelle le signe noir, le fameux Black Swan de Nicolas Taleb, et du coup, pas essayer de l'anticiper en apposant mon intellect sur le marché, mais plutôt de me préparer psychologiquement à quand ça va arriver, à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais rester en position, voir comment je vais renverser cet incident en opportunité. Et c'est vraiment là-dessus aujourd'hui que je focus, et après, bah derrière, ça me libère du temps pour plein d'autres choses. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me dire, OK, mon emploi, c'est cool, comment je pourrais créer d'autres revenus? Et là, entreprise, et là, notre projet, et là, podcast, et là, création de contenu, et là, partenariat d'affaires avec des gens, et là, bah, tiens, peut-être je pourrais te donner un jour par mois pour faire des contrats photos. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de miser là-dessus. Et je sais que derrière, il y a un système qui me permet de dormir la nuit, comme tu disais, François, plutôt que tout miser sur la crypto, tout miser sur le trading, tout miser sur je vais être un putain de génie magicien des marchés qui fait que ça va switcher le game et je vais flipper le jeu, tu vois. Et revenir à ce que je contrôle, de l'ordre du réaliste, mais avec des beaux rêves et des rêves grands qui me donnent envie de continuer, d'avancer, que même si je les atteins juste à 10%, ça sera déjà incroyable.
Génial.
Très inspirant.
Voilà. Il a presque tout dit, là.
François ?
Non.
La question avait été bien posée.
Je vais donner un exemple quand même pour que les gens l'aient, parce que je sais que j'en avais parlé, je crois, dans l'épisode précédent. Et là, au moins, il y aura les chiffres. À l'heure où j'écris ces lignes, donc là, c'est Morgan qui parle. La fortune de Warren Buffett s'élève à 84,5 milliards de dollars. Sur ces 84,5 milliards, 84,2 ont été amassés après son 50e anniversaire. 84,2 sur 84,5 après son 50e anniversaire. Et sur les 84,2 milliards, 81,2 sont tombés dans son escarcelle après qu'il ait atteint l'âge légal pour toucher la retraite de la sécurité sociale, c'est-à-dire à 65 ans. Voilà, je pense que ça fait méditer. Il a touché son premier million à 30 ans.
Bon, après, avec l'inflation,
oui,
etc., je ne sais pas si les chiffres sont...
Ça fait un effet exponentiel.
Okay. Mais oui, ça dit tout. Hein.
J'aimerais que la personne, quand même...
C'est l'effet cumulé.
Celles et ceux qui nous écoutent, là, prennent conscience de ça. Parce qu'on a... Et je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Je pense qu'on a eu le même parcours, et c'est peut-être pour ça qu'on se reconnaît bien là-dessus. C'est la course, finalement, à la richesse. On a essayé de s'enrichir rapidement. Fille du risque. Et finalement, moi, je pense que l'une des leçons qui l'a donné dans le livre, l'une des plus importantes et qui quelque chose que je mets en place depuis maintenant plus de 2 ans, c'est cette idée, en fait, de rester en vie, en fait. De ne pas avoir à se poser la question de si je vais mourir ou pas. Et pour ça, l'une des solutions les plus importantes, c'est de comprendre la notion d'effet de levier. Si on ne comprend pas cette notion-là, en fait, on est voué à mourir.
Tu parles sur les marchés.
Je parle sur les marchés, oui. Oui, je parle sur les marchés. Bah après, potentiellement, ça peut même amener à ta perte financière et donc à ta perte tout court. Hein. Mais bien comprendre cet effet de levier est essentiel. Comprendre que il n'y a pas de raccourci sans risque. S'enrichir, c'est tout à fait faisable. Hein. Je l'ai montré avec l'exemple des cryptos. On peut s'enrichir rapidement, mais la notion de risque qu'il y a derrière est essentielle. Et si on n'est pas prêt de perdre la somme qu'on y a investie, ou qu'on a pris un effet de levier pour y aller, eh ben en fait, on va mourir. Vraiment. Financièrement, on va mourir. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils vont ouvrir un compte CFD, ils vont commencer à trader, et puis ils savent même pas qu'en fait, un effet de levier, ça peut... Enfin, même s'ils ont capté plus ou moins ce que c'est, ils s'en rendent pas compte. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je voyais pas forcément un hiver des cryptos arriver aussi vite. J'ai repris des positions sur l'Ethereum en effet de levier sur mon compte CFD quand la première position, c'était aux alentours des 3 000 $. Donc, c'est-à-dire que l'Ethereum est monté à 4 700 $. Moi, j'ai repris position sur les 3 000 $. Et j'ai repris position après sur 2 000 $. Quand il est descendu sur 2 000 $, pour moi, c'était une offre en or. J'ai dit, allez, vas-y, c'est bon, je récupère encore. Ça fait plus d'un an que ma position tourne actuellement. Si j'avais utilisé l'effet de levier, je serais mort depuis... À aucun moment, il y avait une idée d'effet de levier dans ma position. J'ai utilisé les CFD plus pour éliminer une casquette fiscale qui me faisait chier. Je voulais pas sortir de l'argent des cryptos et je m'étais dit, bah tiens, en investissant en CFD, ça me permettait en fait d'être sur la fiscalité CFD et non pas sur la fiscalité crypto. Et donc j'ai acheté un pour un. C'est-à-dire que, alors j'ai mis un tout petit peu d'effet de levier, mais genre léger, léger. En gros, il aurait fallu que l'Ethereum descende à 400 balles pour me liquider, quoi. Mais autant dire que s'il me liquidait à 400 balles, j'avais le temps d'amasser assez d'argent pour racheter direct par ailleurs, quoi. J'aurais
Ouais,
repris mon
tu en
cash
rachetais par
et
ailleurs
j'aurais racheté directement à 400
et tu
dollars.
te refaisais.
Et ça, c'est un exemple que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce qu'on a raison que le marché va nous donner raison tout de suite. On peut avoir raison et se faire niquer. Si on maîtrise, si on met, et souvent, et surtout ça, c'est si on maîtrise pas cette marge d'erreur, cette marge de sécurité dont il parle. Cette idée de devoir à tout jamais maîtriser ce risque inhérent de la faillite. Parce que c'est ça qui peut te détruire et te limiter, enfin, et t'empêcher, finalement, d'obtenir la chose clé qui est l'effet multiplicateur. Cet effet multiplicateur dont je parlais juste à l'instant avec l'exemple même de Warren Buffett, qui en fait, il le dit bien dans le livre, beaucoup de livres expliquent, selon eux, quelle est l'astuce que Warren Buffett a utilisée pour être un si bon investisseur. Et en effet, il a des très bons rendements et c'est une très bonne chose et c'est une question à se poser. Mais beaucoup oublient finalement cette notion clé qui est l'effet multiplicateur, qui est l'effet exponentiel. Des rendements qui lui ont permis finalement, grâce au fait qu'il a pu investir pendant plus d'une cinquantaine d'années sur les marchés, avec un taux de réussite important, on est d'accord, mais même si je prenais 10% et pas 22% qui est sa performance moyenne, et ben je serais déjà mais très très bien, quoi. Et ça, les gens n'arrivent pas à se rendre compte que suffit de survivre, même avec des taux très très faibles de rendement, plus je vais laisser le temps au temps. Et plus je vais atteindre des objectifs qui sont au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et donc en me donnant cette chance de survivre, eh ben je vais me donner cette chance d'avoir cet effet multiplicateur qui va me permettre d'atteindre finalement bien plus d'objectifs, bien plus facilement mes objectifs, que si j'essaie de courir après le gain, m'enrichir rapidement, et puis après on verra. Ça marche pas. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Julien et je reviens bien sur ce qu'il dit, cette idée de... Bah, qu'est-ce que je vais faire de mon temps déjà? Comment je me pose? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement? Et puis après, se positionner sur quelle est ma sécurité à moi? Jusqu'où je suis prêt à prendre du risque? Parce que ça, il est libre à chacun. Il y a certaines personnes qui ont besoin de peut-être 20 000 dollars en coussin pour se sentir bien. Et typiquement, pour Morgan, c'est le cas. Il a plus de 20% de liquidité en cash parce que c'est sa sécurité. Il a besoin de ça pour pouvoir se sentir en sécurité. Eh bien, ok, ça marche. Pour vous, c'est quoi? C'est quoi la sécurité? Moi, personnellement, je me sentais tout à fait en sécurité quand j'ai pris mes deux positions sur Ethereum. Et je savais que c'était un pari qui était osé, potentiellement on montait et j'aurais fait beaucoup d'argent, mais s'il baissait, bah c'est pas grave. Je vais pas mourir de ça. Moi, je me sens en sécurité avec ce que j'ai fait. Et j'étais OK avec ce risque.
Ce ratio risque-rendement.
Exactement.
Et puis la notion qu'il faut toujours payer le prix aussi. Dans le livre, il en parle, c'est-à-dire que t'irais pas au Apple Store en disant je veux le meilleur iPhone sans te dire il y a un prix à payer pour ça. Il va coûter plus cher que les autres. Et en fait, sur les marchés, quand on parle d'investissement, le prix à payer, il est dans la volatilité. Ça veut dire que si toi tu dis OK, moi je veux ça, je veux telle performance, est-ce que tu es prêt à accepter le prix de la volatilité que ça va être, qui va être nécessaire d'avoir pour atteindre cet objectif?
C'est hyper intéressant.
Et quand tu le compares comme ça, c'est incroyable parce que tu te dis, bah non, peut-être que finalement, moi, je suis pas prêt à payer cette volatilité-là. Donc, je vais payer une volatilité moins abusée. Donc, par contre, mon objectif, bah, je peux pas acheter le même truc. Je pourrais pas acheter la même perf.
C'est intéressant que tu donnes cet exemple parce qu'en fait, beaucoup de gens ont l'impression de cette volatilité que tu payes est une punition, en fait, ce qu'il donne dans le livre. C'est comme ça qu'il explique. Et totalement, et je veux vraiment appuyer là-dessus parce que je voulais bien montrer comment les gens pensent normalement. Il faut l'accepter, quoi. C'est un droit d'entrée sur les marchés.
C'est pas quelque chose, c'est ça, c'est pas quelque chose qui t'arrive, qui est fait contre toi. Des fois, on se dit le marché, il joue contre nous.
Exactement.
Le marché, il s'en bat les couilles, il sait même pas que t'existes. En fait, c'est juste tout le monde qui prend des positions et voilà, ça donne ça, quoi. Donc, c'est intéressant de te dire, bah, finalement, même si ton capital, par exemple, tu fais all-in sur Bitcoin, quand ton capital, il descend de 60%, c'est pas grave. C'était le prix à payer pour avoir du Bitcoin. Parce que ton objectif long terme,
Ouais, c'est
c'est de
ça,
cash out quand le
exactement.
Bitcoin il sera à 500 000, je dis n'importe quoi. Peu importe l'horizon de temps, parce que tu as 20 ans et tu dis je m'en bats les couilles, d'ici 50 ans, de toute manière, il restera plus qu'un Bitcoin à miner. Donc, mathématiquement, si ça continue de jouer ce rôle-là, et tiens, là, on voit qu'il joue. Bref, tu peux après appuyer beaucoup de théories. Mais si c'est quelque chose qui fait sens pour toi assez pour que pendant 50 ans, tu y crois, et que tu es prêt à accepter le prix de la volatilité, bah vas-y, mon ami, tu peux te l'acheter. Tu peux t'acheter ce résultat-là. Et quand tu le vois comme ça, c'est trop ouf en fait, parce que
Mais
finalement, les jours
exactement,
où c'est rouge, ben,
exactement,
c'est
t'as
pas
tout
grave.
compris,
Tu dis
Julien.
c'est correct, c'est normal, fallait que je paye le prix.
Mais t'as tout compris,
Je
c'est
pouvais pas
exactement
espérer
ça.
ne pas passer à la caisse, tu vois.
En fait, finalement, si je comprends bien, il y a rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que quand on parle de j'ai la maîtrise de ce que je fais, soit je vais aller sur du court terme, mais du coup, ça va être par le biais du risque. Et si je veux minimiser le risque, du coup, je vais peut-être prendre plus de temps. Ou alors après, c'est de la chance. Mais là, du coup, c'est plus quelque chose que je contrôle. C'est quelque chose qui m'arrive par hasard. Mais du moment où je veux reprendre les choses en main,
Exact.
forcément, je vais
Ça
être
t'empêchera
dans
pas
ces deux
potentiellement de
paramètres.
mourir malgré
D'une
tout.
certaine façon.
Non, non, mais de mourir même si tu
Et de
n'utilises pas
renaître.
l'effet
Oui,
de
bien
levier,
sûr.
même si tu fais du long terme, tu peux faire des investissements qui tombent mal. Tu vois, je prends un exemple. Je prends un exemple. Une
Ah oui,
personne qui
qui font un flop.
investit,
Oui, bien sûr, tout à fait.
je sais
Oui,
pas,
oui, oui.
qui va avoir 65 ans en 2008, qui va à sa retraite, qui se dit bon, bah c'est bon, je suis à ma retraite et tout, trop bien, j'ai fait de l'argent, j'ai multiplié mon capital comme pas possible depuis ces dernières années, et puis 2008, boum, arrive la crise des subprimes, et le mec il se prend une putain de claque sur son patrimoine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas magique, il y a des fois ça marche pas.
Ouais.
Même quand on a. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette marge de sécurité supplémentaire, et toujours imaginer le pire.
Mais c'est ça, je
Moi je
pense que
pense
non seulement
à
l'imagine.
Benjamin Gates.
Comment?
Il faut que quelqu'un peine.
Ouais, quand
Quelqu'un
il
doit
dit il faut
payer.
que quelqu'un paye, ben,
Exactement. Oui.
quelqu'un doit payer.
Quelqu'un doit payer. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que il y a cette notion, en effet, d'anticiper et de se préparer pour éviter justement de se retrouver avec ce qu'on ne veut surtout pas en tant qu'investisseur, un patrimoine qui est inexistant, parce que c'est ça notre pouvoir, à quelque part. Au-delà, après, du développement identitaire dont a parlé Julien, qui est, moi, à mon sens, extrêmement important, parce qu'on a trop tendance à vouloir le squeezer avec l'avoir, et voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion qui doit être abordée dans le livre sur cette. Comment dire, que l'erreur, finalement, à quelque part, elle va être inévitable. Et je pense que ça rend très humble, en fait, finalement, d'être investisseur, parce que tu feras des erreurs, et donc ta capacité, c'est pas de ne jamais en faire, mais c'est d'apprendre le plus rapidement possible de ces erreurs, de les réajuster, et puis de les admettre aussi. Surtout pas être dans une mauvaise foi avec toi-même, parce que sinon, tu tombes dans un truc où, finalement, tu dis non, mais j'ai pas fait d'erreur, et tout, et du coup, tu finiras par te cramer. Je pense que vous avez expérimenté, moi, j'ai été sujet à ça. Donc, ça t'oblige à vraiment être très humble avec toi-même et à accepter qu'en fait, ben, l'erreur, c'est juste un parcours. Et le but, c'est comme moi, je parle beaucoup d'alignement. Voilà, tu peux à des fois peut-être prendre des décisions qui te désalignent. Et le but, c'est pas d'être tout le temps aligné, mais c'est de rapidement identifier quand est-ce que ça, c'est plus correct ou quand est-ce que tu prends le mauvais chemin? D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent dans l'effet cumulé. Je crois que c'était, j'ai plus les chiffres, mais une fusée qui part de la planète Terre pour rejoindre la Lune, 80% du temps de sa trajectoire, elle est hors trajectoire en fait. C'est dingue. Je donne des chiffres au hasard, mais c'est un peu à peu près ça pour vous donner l'idée en fait. Et concrètement, c'est toutes ces micro-corrections qu'elle va faire tout au long du chemin qui fait que, in fine, elle atteindra la Lune. Mais la plupart du temps sur sa trajectoire, elle n'est pas en direction de la Lune. Elle est en train de s'écarter parce qu'il y a des paramètres du vent, de je sais pas quoi, je connais rien. Mais en gros, c'est intéressant de voir que du coup, on veut toujours imaginer un chemin tout lisse, tout linéaire et tout parfait, et que si on en sort, c'est pas bien. Et non, en fait, ta capacité, ça va pas être parfait, c'est ta capacité à avoir peut-être une discipline et, comme tu disais, Julien, aussi un setup qui fait que du coup, tu as des critères qui sont extrêmement clairs avec toi-même, que tu as identifié par toi-même et que tu n'as pas copié-collé de quelqu'un d'autre, parce que du coup, c'est vraiment en phase avec tes valeurs et ta façon de fonctionner. Ou comme tu disais, Julien, François, avec ton épargne par rapport à ta sécurité, qu'est-ce qui est juste pour toi? Et à partir de là, tu avances et in fine, tu as juste à réajuster et avoir cette humilité, cette clairvoyance et ce discernement, voilà, pour pouvoir ajuster en chemin.
Et il faut pas laisser, juste pour compléter, donc c'est de faire des erreurs, d'apprendre vite, mais de surtout jamais laisser une erreur te mettre à terre. Donc si je faisais peut-être un parallèle avec la boxe, tu pourras jamais éviter tous les coups. Par contre, tu peux protéger ton visage pour éviter d'en
C'est
prendre un dans la
exactement
face
ça.
qui peut potentiellement te knock out.
Ah ouais, jolie
Donc
analogie.
tu pourras pas protéger tous les petits coups, mais à tout moment, ta garde doit rester haute parce que ne laisse jamais une erreur te mettre à terre et te sortir du game.
Bah là, on revient un peu sur le risque-rendement, en fait. C'est-à-dire, si tu prends un gros risque et que tu veux, tu sais, pour prendre un KO, tu veux pas prendre ce risque-là parce qu'il est
Mais
trop.
en fait, moi, c'est vraiment cette notion-là que je voulais apporter là dans ce que t'as posé comme question. C'était cette idée de dire que j'ai eu la croyance, ou en tout cas, peut-être la naïveté, on va dire, de penser que je pourrais battre le marché ou que je pourrais réussir à m'enrichir rapidement ou sans avoir cette notion clé qui était de rester vivant. Parce que j'avais des petites économies. Et je pense que c'est l'erreur que font la majorité des investisseurs, c'est qu'ils commencent avec très peu d'argent. Et en fait, ils se disent, bah ouais, mais c'est que 1000 balles, donc on s'en fout. Et du coup, on fait n'importe quoi. Et on prend pas les bonnes règles tout de suite. Et on adapte. Ce que tu disais, Julien, d'une certaine manière. Si je commence pas maintenant à faire les bonnes choses, pourquoi je le ferai plus tard? Et en fait, c'est ces moments-là, quand on prend ces décisions-là, où au final, on risque de se prendre un putain de punch dans la face. Et être KO. Et ne pas s'en remettre. C'est ça que je veux dire. C'est que au début, on se dit, ouais, mais c'est que 2000 balles. Et c'est vrai, je suis le premier à le dire. 2000 balles, bah, ok, tu vas travailler 2, 3, 4 mois, tu vas te refaire ton économie et puis tu vas y arriver. Enfin, je parle pas de la classe sociale la plus basse, mais je pense pas que ces personnes-là nous écoutent, potentiellement.
Et puis 2000, il ne faut pas oublier que
Mais
c'est
oui,
2000
totalement.
mètres, tu
Oui, mais
parles. Donc
oui,
ça veut dire qu'il faut
totalement.
gagner beaucoup
Totalement.
plus en brut.
Non,
C'est
c'est
ça aussi les
4000.
raccourcis. Des
C'est
fois, on se dit, ah,
4000
bah, 2000,
brut et
ça se
puis
fait vite. Non, ça se
c'est
fait pas vite, 2000. 2000 d'épargne.
et
Et
si
si
c'est
c'est
10 000
10 000, et si c'est 100 000, et si c'est 200 000, et si c'est 1 000 000. Donc plus tu avances, plus les erreurs coûtent cher.
Mais c'est ça, même si c'est pas quelque chose qui est irréparable, c'est ça que je veux dire quand je dis que ça se fait vite, c'est pas non plus quelque chose qui est bon. Au contraire, ça peut même te détruire totalement, te détruire toute ta confiance en toi, te détruire tes rêves, et au final, tu peux vraiment te faire cassé. Et moi, j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai perdu plus de 5000 euros sur les marchés au tout début, avec des gains à certains moments et des pertes à d'autres. Mais des situations et des moments où j'ai été victime de la longue traîne, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que mon capital a fondu comme neige au soleil. Petit dédicace à Ryan, à Mdouche. Bref, peu importe. Et c'est ce point-là qui pour moi est important.
Et peut-être même tu me fais penser que le plus grand risque finalement, au-delà de la perte financière, c'est ce que tu dis, c'est ta confiance en toi et ta confiance dans le process qui fait que si derrière, même si ton argent, ok, l'argent on peut le recréer, mais ta confiance, ça peut être très difficile à rebâtir. Et si ça t'empêche derrière, ça te sort complètement du lieu et tu dis, moi, je n'y crois plus, j'ai plus confiance, donc du coup, j'arrête de faire ça ou je vais le laisser faire par quelqu'un d'autre. Et tu sors complètement du jeu.
Et encore pire. Et j'ai eu la chance, je pense, d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de moi et d'avoir cette mentalité, je pense, de gagnant qui m'a permis de me dire, non, t'as juste fait les mauvaises choses. Et là, je reprenais la citation d'Albert Einstein. Si tu essaies toujours de faire la même expérience en espérant un résultat différent, c'est que tu commences à devenir fou. Et bah, du coup, j'ai dit, OK, bah, on va changer les conditions initiales de l'expérience. On va passer sur autre chose. Et donc, au lieu d'utiliser l'effet de levier comme un outil pour s'enrichir rapidement, bah, j'ai utilisé l'effet de levier dans ce qui sert. Soit couvrir son portefeuille, soit prendre des risques potentiels, mais limité et sécurisé par quelque chose de supérieur, c'est-à-dire ouais, j'ai du cash à côté, j'ai d'autres investissements à côté qui tournent, j'ai diversifié, j'ai plusieurs comptes différents dans lesquels j'investis, et ça fait qu'au final, bah là, je vais pouvoir m'épanouir et pouvoir dormir sur mes deux oreilles parce que j'aurai rempli finalement tous ces points-là.
Christian, tu avais d'autres questions ou est-ce qu'on fait le wrap-up ?
Ouais, j'avais une dernière question pour vous, parce que du coup, la plupart des réponses que vous avez apportées ont répondu à d'autres questions, donc on va aller à l'essentiel. Okay. Ça va être un peu une question-conclusion, je trouve, en plus, qui peut être intéressante pour nos auditeurs, auditrices. Finalement, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut améliorer sa relation avec l'argent et les investissements après avoir lu ce livre ?
Donc là, tu parles de conseils personnels ou de mettre l'emphase sur des conseils qui sont prodigués dans le livre, qui sont vraiment importants ?
Bah, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que si concrètement, c'est quelque chose que tu veux plutôt raccorder au livre, mais peut-être aussi faire le lien avec ta propre expérience, parce que c'est pour ça que ça te parle autant, ou que tu penses que cette recommandation peut être vraiment pertinente et qu'elle t'a peut-être porté préjudice parce que toi, potentiellement, tu l'as pas. Moi, je pense que ça peut être intéressant quand même que ça vienne faire sens avec votre propre parcours.
Ben moi, je pense il y a plusieurs choses. Déjà, je dirais, il faut se responsabiliser. Pour moi, c'est la première des choses. J'ai encore une personne de mon entourage, il n'y a pas longtemps, qui me disait que... D'ailleurs, ce n'est pas la seule. On me l'a souvent dit, ben toi, Julien, ça t'intéresse, ces choses-là. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je veux juste faire de l'argent. Je ne veux pas comprendre tout ça. Ce qui ne fait aucun sens, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si je te disais, moi, demain, je veux avoir fait le marathon de New York, mais je ne suis pas prêt à jogger. Donc, quelqu'un qui vraiment et sincèrement avec soi-même veut prendre la responsabilité de son parcours, de ses finances, parce que l'objectif ultime, on l'a dit tout à l'heure, c'était de regagner le contrôle de notre temps, qui est notre bien le plus précieux sur cette planète. Tu vois, pour moi, tu es au carrefour. Où tu te dis, je fais confiance à l'État-providence, tu vois, comme en France. Tu dis, je fais confiance au gouvernement. Et tout va bien se passer, j'aurai ma retraite à la fin, et puis je compte sur eux pour le système de santé, je compte sur eux pour tout. Ça, c'est la vision plus socialiste, et par répartition. Et en France, c'est pour ça que c'est en train de péter, parce que c'est un système qui, à mon avis, n'est pas viable à long terme, avec la conjoncture actuelle, les problématiques de population, d'environnement, je ne parle même pas des enjeux climatiques qui s'en viennent, etc., etc. Le capitalisme, je ne dis pas que c'est mieux en tant que tel, mais je pense... que le capitalisme apporte certaines solutions quand il est fait correctement. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à régler, à mon avis. Mais c'est relativement accessible, à mon avis, pour les gens qui nous écoutent, de dire « Ok, je prends la responsabilité de ça. » Et depuis tout à l'heure, on parle d'un livre. J'espère, Christian, qu'on t'aura donné envie de le lire.
Ah, carrément, ouais.
Et tu nous diras ça à la fin. Mais ce livre-là, il peut se trouver à la bibliothèque. Ça veut dire que c'est potentiellement gratuit d'aller chercher cette information-là. Ce mec, il a peut-être travaillé la moitié de sa vie à condenser, tu vois, à rencontrer des gens intelligents, à réfléchir, à regarder des données, des statistiques, à en tirer des conclusions, des leçons de vie. Toi, tu peux prendre ce putain de livre gratuitement, le lire en une semaine, puis c'est un raccourci dans ta vie qui est incroyable. Puis là, c'est juste un livre. On peut en rajouter d'autres, et d'ailleurs, je pense qu'on vous en reparlera, mais on pense aborder d'autres livres comme ça. Dites-le nous d'ailleurs en commentaire, je lance l'appel, si vous avez aimé cette espèce de
format, ouais.
De lecture, finalement, un format, c'est ça, l'espèce de fiche de lecture où on vous échange en plus nos points de vue et nos expériences personnelles sur la lecture. Si ça vous a encouragé à lire ces livres-là, ou en tout cas à lire plus de livres sur le sujet, bah, moi, c'est ça que je dirais. C'est-à-dire que demain, n'importe qui peut mettre ça en place. Et c'est bien... Toi, c'est bien de kiffer sa vie, c'est normal d'avoir de la distraction. Je suis le premier à mettre de la distraction dans ma vie, mais il ne faudrait jamais que cette distraction-là, elle soit au détriment de notre croissance personnelle. Et pour moi, c'est de toujours ramener ça à la croissance personnelle en disant, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui comme action qui fait que demain, je ne serai plus la même personne. je vais avoir grandi, je vais être plus proche des objectifs qui sont importants pour moi. J'aurai fait des pas en avant. Puis à tous les jours, on peut poser une petite action qui va faire ça. Et dans ce livre-là, en plus que je trouve extraordinaire, bah c'est qu'on parle à aucun moment de techniques compliquées. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être un expert en mathématiques. J'en ai lu des livres vraiment complexes sur des stratégies de trading, d'analyse technique, des choses où là, vraiment, il fallait que je m'accroche, il fallait que je ressorte mes cahiers de maths d'école d'ingé pour comprendre certaines formules mathématiques. Là, on te parle. Et finalement, tu te rends même compte que c'est suffisant. Tu n'aurais même pas besoin de lire l'autre ouvrage. Tu pourrais te contenter de ça, de psychologie. Quand on parle de psychologie, on parle de la vie en général, on parle des relations humaines, on parle de notre relation à nous-mêmes. Donc apprendre à mieux se connaître, quel beau voyage. Ben, c'est ça, moi, que j'encouragerais nos auditeurs et auditrices à mettre en place. C'est prenez vos responsabilités, allez lire des livres qui vont vous mettre sur la bonne voie, entourez-vous de personnes qui ont déjà entamé ce processus et qui vont vous accompagner pour que vous ayez... Que ça soit motivant en fait d'avancer sur ce parcours en disant que vous n'êtes pas un mouton noir. Il y a plein de gens qui sont comme vous, qui veulent être dans cette démarche-là, qui rêvent d'un avenir plus heureux et qui s'en donnent les moyens en fait. Donc il y a la chance, on a parlé tout à l'heure, on a dit oui, la chance, elle joue un rôle, mais si tu ne t'exposes pas à la chance, elle ne va jamais arriver dans ta vie. Donc c'est important d'être ouvert et de t'exposer. Et comment on s'expose? En étant dans l'action. Voilà pour moi.
Bah, merci Julien pour cette réponse et cette conclusion d'une certaine façon. François, tu veux...
Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Julien. D'ailleurs, si vous vous posez la question, est-ce que l'auteur, à un moment donné, va parler de lui et de ce que vous, enfin, de ce qu'il propose, en effet, il y a un chapitre, le chapitre 20, qui sont ses confessions, tout simplement, et où il aborde finalement lui ce qui fait lui. Maintenant, après que vous avez compris techniquement, après avoir lu tous les chapitres, que ce n'est pas forcément ce qui va vous convenir.
Ah.
Donc, voilà, je vous laisserai le lire, je pense que c'est important. Mais techniquement, ce qu'il dit, il n'y a rien de sorcier. Rien de sorcier, et je rejoins tout à fait Julien là-dessus. Quand, par exemple, comme je disais au tout début de ce podcast, mon bouquin sera sorti et que vous pourrez mettre en place un portfolio, un permanent portfolio efficace et simple, il n'y a plus d'excuses, quoi. Ce n'est pas évident, ta question. Parce que j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses. Il y aurait tellement de notions à donner.
Oui, il y a plein de choses. Hein. C'est une question piège parce que c'est très vaste. Mais peut-être dans la priorité de ce que toi, tu vois, François, qu'est-ce qui serait peut-être la première chose qui serait pour toi la plus essentielle à partager pour que les auditeurs, auditrices repartent avec ça. Et ça serait vraiment déjà un premier pas, tu vois, même si, encore une fois, il y en a plein d'autres derrière. Hein. Mais voilà.
J'hésite entre deux. Je pense qu'il y a une des notions qu'il aborde qui est super intéressante, qui, moi, a tout de suite été quelque chose que j'ai pris conscience. C'est la différence entre que dans la vie, en fait, il y a deux étapes. Il y a s'enrichir et rester riche. Et c'est deux compétences qui sont totalement différentes. Et on peut savoir s'enrichir, mais être très, très mauvais à rester fortuné. Là, du coup, je vais donner plutôt le bon terme. Parce qu'en fait, on n'a pas la deuxième compétence qui est de rester riche, de rester fortuné.
Parce que ça demande des skills différentes et même opposées, en fait.
Exactement, et même opposées.
C'est intéressant de le voir sous la forme de compétences.
Ouais, totalement. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai tout de suite ressenti quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec les cryptos. Savoir dire, et je pense que c'est une des notions, savoir dire j'en ai assez, permet souvent de switcher entre l'un et l'autre. Si j'arrive à dire j'en ai assez, je vais pouvoir prendre mes gains. Et ça, c'est une des notions les plus compliquées. Les gens savent rentrer dans le marché, mais pas forcément sortir. Et s'ils arrivent à sortir du marché correctement, ils vont réussir à récupérer des gains. Et du coup, potentiellement à réinvestir et à faire boule de neige. Et du coup, à rester riche. Tout en continuant à s'enrichir, parce que l'objectif est quand même de faire les deux. Enfin, jusqu'à un certain stade. Après, tout dépend de vos objectifs, quoi. Toujours pareil. Et je pense que ça, c'est une notion qui est importante d'avoir en tête quand on commence, parce que les deux compétences ne sont pas les mêmes et que on pourrait se fourvoyer à croire que je vais toute ma vie utiliser la même stratégie. Il y a un certain niveau où, bah non, je vais pas acter pareil. Et ça, ça me fait rebondir du coup sur la deuxième notion que je voulais aborder, qui en fait... et un peu intrinsèque à ce que je viens de dire, c'est le fait que vous serez pas le même tout au long de votre vie. Et donc, du coup, vous n'allez pas avoir les mêmes envies, les mêmes objectifs, parce que bah, votre vie sera pas juste la même. Et du coup, ça va aussi impacter votre manière d'investir. Et une des erreurs classiques que les personnes font dans ces moments-là, c'est qu'ils prennent des décisions sur des coûts irrécupérables. Et ça, c'est une notion, moi, qui fait énormément sens. Je ne sais pas si cette notion...
C'est-à-dire qu'en gros, de façon imagée, moi, ce que j'imagine, c'est qu'à quelque part, dans un coût irrécupérable, c'est comme si tu laissais ton toi du passé aux commandes de ta vie présente.
Exactement, c'est
Moi, c'est l'image que
exactement
j'ai parce
ça.
que je le vois beaucoup dans ma dimension orientation professionnelle où des personnes continuent à faire un travail qui ne leur plaît pas parce que c'était un choix qu'ils avaient fait avant, mais aujourd'hui, ils le changeraient bien. Mais voilà, le fameux coût
C'est
irrécupérable. C'est intéressant de le voir aussi dans l'argent.
exactement ça. Tu vois, il le dit, il dit, cela revient à enfermer son moi futur dans un carcan construit par son moi d'hier qui était autre. Exactement ce qu'il dit. Un peu comme si vous laissiez un parfait inconnu faire des choix de vie importants à votre place. Et ça, les personnes qui m'écoutent, enfin, qui peut-être peuvent se retrouver là-dessus, il y a des fois, en effet, on prend des décisions et ça a un coût irrécupérable. On prend ces décisions et le piège, c'est de rester bloqué là-dedans, en fait. De rester bloqué là-dedans et se dire, bah, toute ma vie, en fait, c'est bloqué, je pourrais pas évoluer, je pourrais pas, parce que c'est un coût que je pourrais jamais accepter, finalement. Et sans ça, en fait, je pense qu'on passe à travers beaucoup, beaucoup de problématiques, la notion de la perte, que moi j'ai beaucoup vécu, où j'étais en contradiction avec le marché, et où du coup, ben, tu vois des pertes, voire même c'était encore différent, c'était plus que qu'un coût irrécupérable, moi c'était même pire, parce que c'était avant que le coût irrécupérable se passe. Et typiquement, c'est une des erreurs qu'on fait. Ça, on la connaît, hein, c'est laisser courir ses pertes et ne pas couper et couper trop vite ses gains. Et en fait, laisser courir ses pertes, pour moi, c'est ça, c'est ne pas accepter ce coût irrécupérable. Et donc, du coup, on laisse courir sa perte, elle s'amplifie, majoritairement, hein, elle s'amplifie. Et du coup, en fait, à un moment donné, on se fait sortir du marché parce que bah, on a un effet de levier qui est cochon. Et donc, du coup, on n'arrive même plus à sortir de quelque chose de cohérent de cette histoire, puisque bon, on a à minima perdu 50% de son capital, puisque il y a un appel de marge avant que ça se fasse. Et c'est là où vraiment le coût irrécupérable se réalise. Là, c'est sur du concret, mais après, on peut le voir sur des décisions de vie même plus larges. Et par exemple, ce que j'expliquais, l'idée de s'enrichir ou l'idée de rester riche. Bah, typiquement, si je reste dans mon carcan et dans la personne qui a cette idée de s'enrichir, bah, potentiellement, il fera les faux pas sur comment rester riche, parce que c'est pas la même compétence et qui va faire des coûts irrécupérables qui ne pourront jamais être récupérés ou ça pourrait tellement l'affecter qu'il va devenir fauché. Et, enfin, les exemples qui montrent typiquement là sur s'enrichir ou rester riche. C'est exactement ça, hein, c'est deux personnes qui finissent à se suicider.
Ah oui, il ne va pas avec
donc
le dos de
c'est.
l'équerre.
Oui. Après, c'est pas ce que je vous souhaite. On est bien d'accord, hein? C'est pas du tout l'idée. Mais ça permet de faire un électrochoc aussi, de comprendre que c'est deux notions complètement différentes qui, pouf.
Sur cette note positive.
Ouais, c'est ça.
Bon, bah, super. En tout cas, merci à vous deux
Cool.
pour toutes ces précieuses réponses. J'espère que ça aura donné. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie vraiment. Parce que l'argent en soi, pour moi, c'est pas dans mes valeurs premières. J'aime toujours l'accorder à quelque chose, lui donner du sens, etc. Et la notion psychologie de l'argent m'avait tiqué. Enfin, voilà, il m'avait interpellé dans le titre du livre. Et du coup, ça m'intéresse parce que je préfère m'intéresser à l'humain, sa fonctionnalité, la psychologie, etc. Et donc du coup, ouais, vous m'avez teasé et hâte de pouvoir approfondir tous ces éléments que vous nous avez déjà partagés. Un grand merci à vous deux et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être
Ouais.
un dernier mot?
Ouais.
C'est tout bon?
Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci Christian pour tes bonnes questions
Bah, avec plaisir.
ouvertes et éclairées qui nous ont permis d'aborder le livre sous un angle plus, à mon avis, didactique et un peu plus ludique. Donc, bah encore une fois, on vous invite à nous laisser un commentaire si vous avez apprécié le format de cet épisode. Et puis, si vous avez peut-être même des recommandations de livres à nous
Totalement.
faire, parce que c'est pas une route à sens unique de cette histoire-là. Donc, nous, on a plein de livres qui nous viennent en tête, mais peut-être que moi, je vous mets même au défi de me proposer un livre que j'ai pas encore lu et que je vais avoir envie de lire. Donc, voilà, on regardera tous les commentaires qui ont été laissés. Et ça fera l'objet d'un épisode donc, dans la saison 2, puisque le prochain épisode, ça sera l'épisode numéro 10, où on fait un wrap-up de la saison 1. Donc voilà, merci à tous et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Merci à vous, à bientôt.